Bonjour, bon après-midi. Bienvenue dans ce groupe de partage dans l'esprit de la non-dualité autour d'un courant miracle et autour d'autres enseignements non-duels que de temps en temps nous citons. Nous sommes le dimanche 23 septembre, juste à un jour de l'équinoxe d'automne qui a eu lieu hier, et j'accueille par la même occasion les nombreux frères et sœurs qui nous suivent à distance et qui écoutent en ce moment cet enregistrement, qui sont d'ores et déjà avec nous. Je vais commencer par un petit son de cloche afin de nous inviter à commencer ensemble dans une conscience partagée. Merci. Voilà, je vais donner quelques directions pour introduire cet après-midi très douce du 23 septembre. Hier, il m'est venu une réflexion que j'ai envie de partager avant de commencer vraiment. C'est plus qu'une réflexion, c'est même comme une intuition, un message. Il m'est venu que à l'équinoxe, le jour et la nuit sont égaux. C'est l'équinoxe dans les deux hémisphères du globe. C'est l'équinoxe d'automne chez nous, c'est l'équinoxe de printemps chez nous. Le soleil est exactement au-dessus de l'équateur, donc ne chauffe pas plus l'hémisphère nord que sud. Et donc c'est pour moi un moment d'unité sur Terre, l'équinoxe. Unité, égalité entre jour et nuit. Et aussi, toute la Terre entière reçoit le soleil de manière égale. Il n'y a pas plus chaud d'un côté, plus froid de l'autre. Donc deux fois par an, c'est une invitation pour moi à être dans cet état d'unité. Tous ensemble, toute la Terre ensemble, toute l'humanité ensemble, dans ces deux équinoxes. Et j'ai senti que peut-être grâce à ça, il y a des vibrations particulières dans les équinoxes qui font qu'il y a des rassemblements spirituels, des canalisations de Saint-Germain et d'autres qui se passent à ces périodes-là. Les solstices aussi sont puissants, mais voilà, c'est ce qui m'est venu à propos de l'équinoxe. Et on a aussi fait une méditation pour la paix. Le 21, juste un jour avant l'équinoxe, c'est des moments qui me semblent assez propices pour l'élévation de conscience, ou pour pouvoir recevoir aussi ces vibrations qui sont puissantes à ce moment-là. Voilà, ce jour, nous nous rassemblons en tant qu'esprit pour recevoir et partager des vérités qui parfois sont oubliées, pour nous rappeler ces vérités-là. J'ai ouvert tout à l'heure au hasard un courant miracle à la page 356 du texte, au chapitre 16, le pardon des illusions, et il me vient de vous lire ce que j'ai souligné. Quand deux esprits se joignent pour n'en faire qu'un, et partagent une même idée également, le premier maillon a été fait dans la prise de conscience de la filialité ne faisant qu'un. Voilà, ça me touche, hein, ça me fait vibrer à l'intérieur, puisque nous joignons en effet nos esprits dans le but, ce but précis, de nous rappeler qu'en tant que filialité, en tant que fils de Dieu individuel, qui se croyons dans une individualité, eh bien nous ne faisons qu'un. Et nous prenons conscience un peu plus de cette unité, parce que non seulement nous joignons les esprits, et nous partageons aussi une même idée. Hein, l'idée que nous sommes un, entre autres. Hein. Voilà. Et puis, ce n'est pas non plus un hasard, mais une synchronicité qui m'a guidé à tirer la seule leçon du cours qui est en 3 ou 4 exemplaires, alors que chacune des autres est unique. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il semblerait que celle-là a besoin d'être rappelée plus souvent. Je suis tel que Dieu m'a créé, même si j'imagine autre chose, mon imagination n'a pas le pouvoir de changer ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé, c'est ce que je suis. La nature profonde de ce que je suis. Pas ce que je pense que je suis, pas l'être séparé que j'imagine que je suis, même si mon esprit est tellement puissant qu'il suffit d'imaginer que je ne suis pas divin pour que ça puisse avoir des effets et me montrer cette séparation apparente sous la forme du monde, des corps, du temps, de l'espace que nous connaissons bien tous, qui apparemment s'approche à une conclusion en ce moment. On en parle de fin des temps, hein, et c'est possible aussi que ce soit la fin du temps tel qu'on le connaît, pour ne laisser place qu'à l'éternel présent, l'éternel instant présent. Quand je suis dans le maintenant, ben, on peut en effet dire qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus le temps chronologique, il n'y a plus le hier, il n'y a plus le demain, il n'y a plus la projection aussi dans un temps futur ou la mémoire d'un temps passé. Tout ça est de l'ordre du mental. Et dans cette fin de dualité qui nous est annoncée et que, en effet, moi je pressens aussi par les différentes choses qui se passent, cette accélération ressentie du temps, des vibrations aussi, des choses à nettoyer qui remontent aussi, par cette accélération du temps, par cette fin du temps, c'est aussi une manière de sortir du mental, hein, qui lui est le seul responsable de fabriquer le temps. Le temps n'existe pas pour un chat ou pour un cheval ou pour un chien. Le temps est notre création et nous fixons les choses par la mémoire et ensuite nous y faisons référence pour avoir peur ou pour espérer. Tout ça est dans un futur hypothétique qui est pur potentiel, qui peut ou pas se réaliser, ou dans un passé que nous ramenons grâce à notre mental dans l'instant présent. Mais quand je ramène le passé dans l'instant présent, c'est quand même au présent que je le vis. Rien de ce que je ne vis se passe en dehors du présent. Hein, chaque chose que je le vis maintenant. C'est pas possible de vivre dans le passé, c'est pas possible de vivre dans le futur. C'est possible seulement d'imaginer les deux. Donc c'est intéressant quand même de voir que malgré nos efforts désespérés pour nous imaginer un temps, eh bien nous ne vivons que l'instant présent, nous ne vivons que le maintenant. Parfois nous polluons notre présent avec des réminiscences ou des projections, mais c'est quand même intéressant de se rappeler que chaque chose qui est faite dans le maintenant uniquement. Voilà, je vais citer 5 phrases puissantes que je cite très régulièrement ici et dans ma vie, qui apparaissent dans Un cours en miracle, ce gros livre bleu de 1300 pages, à la page 30, qui invite à laisser les choses être dirigées par l'esprit que nous sommes, plutôt par le mental que je suis, concernant ce qui va se passer dans les 2 prochaines heures dans ce groupe. Et ces phrases, les voici. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc, en effet, je suis là où il souhaite que je sois et je m'en réjouis. Et je n'ai pas à me soucier de ce qui va être dit par moi ou de ce qui ne va pas être dit par moi, car je vais diriger, hein, comme chacun d'entre nous, à dire ou à ne pas dire ou à rester en silence les choses qui, soudain, feront leur apparition dans mon esprit dans le but d'être partagées. Donc, il n'y a pas de programme et c'est très bien comme ça. Je ne sais pas ce que je vais dire et c'est très bien comme ça aussi, en fonction des questions qui vont être posées, des situations qui vont être amenées. Peut-être me seront insufflées des idées de partage, des phrases qui pourront que je pourrais vous auxquelles je pourrais donner une communication. Et j'ai envie de continuer les directions en citant quelques phrases que j'ai été amené à écrire il y a quelques mois, qui peuvent être des sujets de partage, à propos desquels chacun est libre de poser des questions, ou nous pouvons que des sujets que nous pouvons approfondir, qui sont éminemment, chacun d'entre eux, liés à la non-dualité. Ceci dit, au passage, tout est lié à la non-dualité. Chaque événement minime de votre vie est lié à la non-dualité, puisque nous sommes esprit et que nous ne quittons pas un seul instant l'état d'esprit que nous sommes. Cependant, il y a des directions qui sont peut-être plus parlantes pour certaines personnes. Et bienvenue, chers frères. Voilà, nous t'attendions. La chaise était là pour toi. Donc aujourd'hui, si nous sentons que c'est juste, nous pouvons partager à propos de l'origine et du sens d'un cours en miracle, ce gros livre bleu auquel nous faisons souvent référence, autour du fait que, en définitive, il n'y a que l'amour ou la peur et toutes les dérivées dans notre monde humain. Autour de comment mieux percevoir notre nature véritable en dessous des apparences, comment pacifier notre vie avec le véritable pardon, quel est le sens du mot Dieu dans la non-dualité, comment nous pouvons aussi choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison dans certaines situations, comment aussi identifier l'ego comme étant la croyance que nous sommes séparés, comment aussi réaliser le pouvoir divin de nos intentions et de nos pensées. Comment aussi on peut partager autour de ce que nous voyons du monde est un reflet de nos pensées uniquement. Comment aussi distinguer les deux niveaux de perception qui sont réalité d'une part, avec un grand R et illusion d'autre part, vu par notre personnalité. Comment être dans ce monde sans être de ce monde? Ça peut être aussi un sujet de partage, comme le disait Jésus il y a 2000 ans, 2000 et quelques. Comment aussi partager à propos de à quoi sert le scénario de notre vie sur Terre, de nos vies en tant qu'humanité, autour aussi de ce thème majeur qui est la vraie guérison et celle de l'esprit, et non celle du corps, autour de la nature du voile de séparation que nous avons volontairement mis sur notre esprit pour jouer le rôle d'humain sur Terre, séparé. Qu'est-ce aussi que le plan divin pour l'humanité, un mot ou des mots qu'on entend souvent en ce moment? Comment également avoir une relation avec l'ego jusqu'à l'apprivoiser et le remettre à notre service plutôt que de le combattre et de lutter contre lui? Et aussi, pour finir, le fait que le monde subtil est à nos côtés en permanence pour nous fournir de l'aide à chaque instant. Mais c'est à nous de la demander. C'est notre part du partage. Voilà, et puis dans ces réunions, nous citons comme phrase importante, pratiquement même fondatrice, une phrase très courte qui dit simplement « Dieu est », qui était citée par Jésus de son temps sur terre. Et « Dieu est » recèle en lui, cette phrase recèle en elle une puissance qui peut apparaître lorsqu'on développe un petit peu cette phrase. Dieu est, on ne dit pas Dieu a été ou Dieu sera, mais on dit Dieu est. Et cela veut dire Dieu est tout ce qui est. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il n'existe rien. La seule réalité, c'est Dieu. Alors rapidement, nous pouvons dire que si Dieu est tout ce qui est, Dieu ne peut pas s'opposer à quelque chose, puisque il faudrait qu'il y ait autre chose que Dieu pour que Dieu s'oppose à quelque chose, ou alors il s'opposerait à lui-même, ce qui n'a vraiment pas de sens. En tant que tout ce qui existe, comment puis-je m'opposer à moi-même? Et si Dieu ne s'oppose à rien, Dieu accueille tout. Accueille toutes nos existences, accueille toute notre illusion, toute notre réalité dans ce monde, sans la juger. Dieu est donc pur accueil, sans aucun jugement, et quoi que ce soit que nous disions en tant qu'humains, que nous fassions, Dieu dit toujours un seul mot, d'accord. Dieu est toujours d'accord. Vous voyez, ça va loin, hein, quand on parle de Dieu est. Dieu est d'accord et ne juge rien, accueille tout. Et nous sommes Dieu. Nous sommes dans tout ce qui est, bien sûr, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et donc, notre existence et celle de Dieu sont une seule et même vie, qui ne s'arrête jamais. Et je suis tel que Dieu m'a créé, leçon 110, entre autres, parle de cette nature qui est invulnérable, inchangeable. Je peux voiler mon esprit avec un voile aussi épais que je veux, derrière le voile je serai toujours tel que Dieu m'a créé, pur esprit, immortel, illimité, puissant, connaissant tout, inchangeable, invulnérable, éternel. Mais je peux croire autre chose sans que cette réalité-là soit changée pour autant. Je peux me persuader en rêve d'autre chose. Il s'avère que ce voile de séparation a une utilité. Nous avons voulu faire l'expérience de que serait le monde si nous n'étions pas divins, s'il y avait un opposé à l'amour, si en face de l'amour il y avait la peur, ce qui n'existe pas dans le monde de la réalité. Dans le monde de Dieu, il n'y a que l'amour sans opposé. Il n'y a que le bien sans opposé. Et dans le monde de dualité, il y a l'amour et il y a la peur et tout ce qui en découle. Donc nous avons longuement étudié la dualité avec tous ses aspects, ce que c'est que de se sentir séparé, ce que c'est que de croire que nous ne sommes pas divins, de croire que nous ne sommes pas puissants, de croire que nous ne sommes pas illimités, de croire que nous n'avons pas toute la connaissance du monde, de la réalité. Nous avons essayé tour à tour toutes les émotions possibles, qu'elles soient ce que nous qualifions de positif ou qu'elles soient ce que nous qualifions de négatif. Nous avons endossé tous les rôles possibles, celui du meurtrier en série, celui du saint, celui de l'homme ou de la femme ordinaire. Nous avons connu des bonheurs, des extases, des terreurs, et nous avons ainsi enrichi une panoplie d'expériences extraordinaires, un arc-en-ciel d'expérience qui, a priori, d'après les enseignements que nous recevons, qui pour moi sont vrais et qui résonnent vraiment très fort, nous mènent à un terme, nous mènent au terme de ces expériences. Pourquoi ? Parce que simplement nous avons joué à pile ou face avec cette dualité. Un coup c'est l'amour, un coup c'est la peur, un coup c'est la terreur, un coup c'est la haine, un coup c'est l'extase, un coup c'est la félicité. Et nous avons fait toutes les expériences possibles et joyeusement nous achevons ce cycle de dualité. Et ce qui nous est dit, et ce que je crois aussi vrai et juste, mais ça me concerne, hein, cette vérité que je ressens, c'est que nous allons ensuite enseigner, partir de tout ce que nous avons appris à propos de cette dualité, et l'enseigner dans des mondes où la dualité est encore à l'œuvre dans un état moins avancé que le nôtre. Voilà, nous allons devenir, pour certains, hein, je ne sais pas en vérité, il se pourrait que nous devenions des enseignants, des maîtres S-dualité. Nous avons fait une thèse en dualité pendant des centaines de milliers d'années. Et maintenant, nous la connaissons sur le bout des doigts, ou des ongles, je ne sais pas comment on dit. Et nous irons aider avec cette connaissance-là, même si elle se base sur des choses qui sont illusoires, elles sont une panoplie d'expériences qui va servir à enseigner quelque chose. Et au final, nous enseignons un retour à l'amour. Comment s'éloigner de l'amour à un point tel que nous nous croyons complètement coupés de l'amour? Comment, dans notre monde, des forces que nous appelons occultes, mais qui sont en fait des frères et sœurs chéris, qui font aussi leur boulot d'âmes engagées au service des autres à travers des rôles très sombres. Comment les dirigeants des forces occultes de notre terre, de notre civilisation actuelle et d'autres anciennes ont pu endosser des rôles très noirs, très sombres, se couper apparemment de leur lumière divine pour ne plus ressentir les atrocités commises, ne plus ressentir les dégâts qu'ils infligent au reste de l'humanité. Bien sûr, tout ça est apparent, mais ces êtres, ces âmes qui ont accepté de jouer ces rôles, ont dû couper leurs émotions pour ne plus ressentir. Ça aurait été impossible d'exercer des rôles aussi coupés de l'amour en ressentant cette vibration basse à ce point de la cupidité, de l'obscurité, de l'asservissement, de la... du génocide également, et puis au fait que la vie humaine est considérée comme sans valeur. Elle ne peut se brader ou se négocier sans état d'âme. Et quand je dis sans état d'âme, il s'agit vraiment de laisser l'âme en dehors des décisions que l'être prend en fonction d'un ego surdimensionné, d'un ego qui a voulu se couper d'une façon quasi définitive de son âme et de la partie qui veut de faire le bien et être au service des autres. Donc cela nous aide, même si c'est difficile à admettre pour la plupart des gens, cela nous aide en nous donnant une perspective très éloignée de l'amour, comme si vous preniez un élastique et que vous le tendiez au maximum pour ensuite le relâcher. Hein. Nous nous éloignons de l'amour avec un élastique et nous atteignons des zones de noirceur telle, Mais cette noirceur est l'élan de l'élastique pour joyeusement nous replonger dans l'unité et dans l'amour, en nous disant que nous avions bien joué notre rôle chacun et que maintenant nous pouvions revenir à notre vraie nature. Voilà, j'achève mon introduction. Quoi que ce soit qui est présent en vous, qui apparemment demande éclaircissement, qui semble manifester un conflit ou manifester une difficulté ou manifester quelque chose de très lumineux, est éminemment pertinent pour être partagé, puisque c'est une façon, une perche tendue par l'esprit pour nous rappeler la lumière et pour éclairer cette situation avec notre lumière en tant qu'esprit. Donc il n'y a rien que vous puissiez dire qui n'est pas d'actualité pour ce groupe de partage. Et si à un moment c'est là et c'est pressant de pouvoir le partager, simplement lever la main même au milieu d'un partage et le micro vous sera transféré. J'ai parlé.
Quand on regarde un peu autour de nous, tous les livres, les sujets abordés, les questions posées, ça peut sembler extrêmement complexe. On parle de non-dualité, de dualité. Et ça peut sembler parfois désespérant ou infiniment complexe. On peut avoir l'envie de tout bazarder. Et en fait, ça semble complexe à cause du type d'expérience qu'on a choisi de vivre, qui est une folie incroyable, qui au départ est un jeu amusant, et si nous n'étions pas qui nous sommes. Évidemment, c'est impossible, la question est absurde, parce que nous sommes qui nous sommes. Et donc cette simple pensée, et si nous n'étions pas qui nous sommes, elle est inévitable, puisque nous sommes l'infini, nous sommes la vie, le vivant. Tout à l'heure, Avi a parlé de filialité, c'est le mot qui a été utilisé dans la traduction officielle du cours en miracle et qui vient d'anglais sonship. Le sonship, qui est un mot même en anglais inventé, il y a craftsmanship. Sonship, c'est l'état d'être le fils. Et c'est l'état d'être l'extension du Père. Dans le monde réel, dans le monde divin, Dieu, la vie, le vivant, ce qui est l'éternel s'étend. Il n'est qu'amour, il n'est que présence. Il s'étend lui-même en lui-même, vers lui-même. Il se donne infiniment à chaque instant d'un temps qui n'existe pas. C'est ça la non-dualité, c'est extrêmement simple. C'est Dieu et tout. Et c'est incroyablement simple. Mais ça nous paraît compliqué parce qu'on a construit, on a imaginé, fabriqué, inventé le concept de dualité, c'est-à-dire de multiple. Dans l'unité absolue de tout, de Dieu et tout ce qui est, voilà que, comme c'est infini, et cet esprit, c'est Dieu est esprit, c'est l'esprit. D'ailleurs, c'est fascinant, parce que vous qui écoutez cet enregistrement, par exemple, vous êtes quelque part dans votre voiture, devant votre ordinateur, enfin, quelque part, et regardez autour de vous, pourquoi il y a des choses autour de vous, pourquoi il n'y a pas rien? Pourquoi il y a quelque chose? Et c'est ce quelque chose qui vous apparaît. Vous ne savez pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Et ça vient de quoi? ça vient de la source. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette expérience humaine, vous interprétez ce que vous voyez. Vous interprétez, et c'est inévitable. On s'est imaginé être un corps physique, ici, nous, les humains. C'est-à-dire, on rentre dans un véhicule par un processus imaginaire. Mais attention, nous sommes la filialité, nous sommes le Fils, avec un pouvoir infini. Et on imagine, parce que c'est imaginé, c'est impossible, s'identifier à un corps particulier. Et ça, c'est la première des illusions. La deuxième, c'est le temps. Et nous rentrons dans un monde où il semble y avoir un temps linéaire, avec des années, des siècles, des millénaires, des millions d'années, des milliards d'années. 14 milliards d'années même pour cet univers que nous visible. Et puis tout se vérifie, scientifiquement, mais c'est une illusion. Pourquoi ? À cause de qui nous sommes. À cause, parce que Dieu est tout ce qui est. Parce que Dieu est. Et Dieu, on ne sait pas ce que c'est l'esprit créateur, mais cet esprit. Donc quand on décide, dans un jeu incroyable, de s'identifier à un véhicule, un corps physique, ce corps va être doté de 5 sens, avec les yeux, les oreilles, la bouche, etc., le toucher, bref. Le sens peut-être le plus fort, c'est celui de la vue. Parce que la vue, c'est... Je vois, quand je regarde autour de moi, et par définition, tout ce que je vois n'est pas moi. Alors on peut dire ce que je sens, ce que je hume, c'est pas moi. Ce que je touche, c'est pas moi. Mais la vision, la vision est peut-être le sens le plus parlant. Et... avant ce groupe, j'ai tiré la leçon 270. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Voilà une des leçons du cours, quand même curieuse, hein, apparemment, au début peut-être. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Pourquoi ? Il n'y a rien de mal à utiliser les yeux du corps, puisque j'ai choisi cette expérience. Donc, ça veut dire que je vais quand même les utiliser. J'ouvre les yeux pour me diriger dans ma chambre, pour conduire ma voiture, etc. Mais ça veut dire, je n'utiliserai pas en conscience les yeux du corps. Parce que les yeux du corps, qu'est-ce qu'ils font ? Le cours nous dit aussi, le cours en miracle nous dit aussi, les yeux du corps sont faits pour ne pas voir. Ah, ça c'est intéressant, je répète. Les yeux du corps sont faits pour ne pas voir. Alors on va dire, mais on voit, là, je vois le paysage, je suis en train de rouler en voiture, je vois le paysage, je suis ici. Autour d'une table chez Avi, etc., je vois la pièce, etc. Mais, en fait, ça veut dire, je ne vois pas ce qui est réel. Je vois une illusion, c'est ça que ça veut dire. Donc, les yeux du corps sont faits pour ne pas voir, sont faits pour ne pas voir ce qui est réel, la réalité. Mais quelle est la réalité ? C'est qu'il n'y a que Dieu, tout est un. Et ça, la non-dualité. C'est très simple. C'est hyper simple, ultra simple. Donc, quand nous avons, vous et moi, l'impression par moment qu'il y a énormément d'écrits, de séminaires, de tas de choses, de bouquins, de vidéos, au sujet des enseignements, alors que ce soit orientaux, occidentaux, etc., amérindiens, tout ce que vous voulez, finalement, vous pouvez rire, nous pouvons rire. C'est hyper simple. Dieu est tout ce qui est. Et vous êtes cela, nous sommes cela. Donc le message non-duel, le vrai message non-duel, est d'une simplicité incroyable, c'est tout est un. La séparation ne peut pas se produire. Tout à l'heure, parmi les questions posées par Avi, en disant on pourrait parler de ceci ou cela, et il évoquait, mais qu'est-ce que Dieu ? Effectivement, c'est une question fascinante. Parce que d'où vient ce que je vois avec les yeux du corps ? C'est imaginé, d'accord, peut-être. Ça me paraît bien réel, c'est fait exprès. Donc, j'ai choisi cette expérience de, entre guillemets, réalité, qui est un rêve. Mais le héros du rêve, c'est moi. C'est mes perceptions. Dès qu'on choisit un instrument, un véhicule qui perçoit les choses. Qui perçoit des choses qui, par définition, ce qu'il perçoit n'est pas ce qui est perçu. Comme disait Krishnamurti, le percevant n'est pas le perçu. Donc tout ce que je vois, ça semble ne pas être moi. C'est fantastiquement illusoire. Et pourtant, ça semble la réalité. Et c'est pour ça que ça semble si difficile. Et c'est pour ça que nous sommes 7 milliards sur cette planète, la grande majorité est vivement opposé à ce que je suis en train de dire. Pourquoi ? Parce que ça fait peur. On dit, mais vous rêvez ou quoi ? Ma réalité, c'est là et je dois me protéger. Hein ? Vous dites que tout est illusoire. Attendez, je vais vous donner un coup de poing dans le visage, sur la figure, vous allez voir si c'est illusoire. La personne qui parle comme ça, elle ne sait pas qu'elle crée la réalité et qu'elle fait partie d'une pièce de théâtre parfaite. Et que celui qui reçoit un coup de poing apparemment donné par un autre, il y a eu un accord entre les deux âmes. Et il y a un accord général pour la pièce de théâtre. Il ne peut pas en être autrement. Pourquoi ? À cause de la non-dualité. À cause de qui nous sommes. Et vous revenez toujours, tout de suite, à l'origine, à la réalité. À l'origine, à la case départ. La case départ, c'est que tout est un. Et que Dieu est Dieu. Et donc, vous allez prendre la Bible, vous voyez, par exemple, Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », mais évidemment, il n'y en a pas. Donc, c'est pas un commandement, c'est une réalité, c'est la réalité. Donc, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu puisqu'il n'y en a pas. Et donc, évidemment, à chaque fois que tu poses une question, j'ai déjà répondu, parce que qui pose la question ? Mais c'est moi, dit Dieu. Et donc, j'ai déjà répondu, la réponse vient avant la question. Je suis la réponse, nous sommes la réponse, Dieu est la réponse. Mais ce n'est pas le Dieu qu'on croit, ce n'est pas un Dieu duel, ce n'est pas un Dieu quelque part qu'il faut atteindre. Et voilà encore un piège qu'on a dans beaucoup de groupes spirituels, et quand on parle d'illumination, d'éveil, etc., comme s'il fallait courir après un éveil, après une illumination, pas du tout. Vous êtes en train, nous sommes en train de redécouvrir qui nous sommes, qui nous avons toujours été, c'est tout. C'est ça la non-dualité. Alors évidemment, il n'y a pas d'école. Ici, on parle beaucoup d'un courant miracle, parce que c'est un outil parmi d'autres. Et cet outil, bon, qui a effectivement un vocabulaire judéo-chrétien, qui est bien précis dans son domaine, comme il dit, il est fait pour un certain domaine, mais on est invité à totalement le dépasser. C'est pas au hasard si, effectivement, il y a 25 ans, j'ai été guidé avec Phoebe à écrire ce livre au-delà d'un courant miracle, parce que les outils qui nous sont donnés, eh bien, ils nous sont donnés pourquoi ? Pour les transcender, un outil n'est pas réel, un courant miracle n'est pas réel. Tout ce que l'on peut voir n'est pas réel. Ce sont des outils. Ce sont des outils qui permettent de nous réveiller. Donc, tôt ou tard, on les lâche. Ils n'ont pas de valeur en soi, puisqu'ils font partie de l'illusion de la séparation. N'importe quel livre, n'importe quelle vidéo, n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes est transitoire, donc elle n'est pas réelle. Voilà encore un concept fondamental. Tout ce qui est transitoire n'est pas réel. Dieu n'est pas transitoire, Dieu est. Et vous n'êtes pas transitoire, nous ne sommes pas transitoires, parce que nous sommes. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Après tout, on est là. Alors évidemment, la plupart de nos frères et sœurs vont dire très bien, mais puis on va mourir. Et donc on ne sera plus là. Et c'est ça l'erreur, parce qu'on est toujours là, on ne meurt pas. On ne peut pas mourir, on peut se suicider, mais on ne meurt pas. Effectivement, le corps qu'on a choisi, le véhicule temporairement qu'on a choisi auquel on a choisi de s'identifier pour faire une expérience dans un temps illusoire, mais qui est bien, bien soigneusement ficelé pour nous donner l'illusion que ça se déroule dans un temps linéaire, effectivement, le corps s'arrête de vivre, s'arrête. Mais la vie ne s'arrête pas. Les fourmis meurent. Elles meurent parce que je les vois mourir. Je vois, par exemple, des petits rats, des rats, des souris qui ont 2 ans d'espérance de vie, et au bout de 2 ans, ça s'arrête. Et c'est comme ça depuis des millions d'années sur cette planète. Tout meurt. Ça naît, sa vie, ça meurt. Ça naît, sa vie, ça meurt. Et on est là à parler de la beauté de la beauté de la vie. Et puis on est terrifié par la mort. Donc ça n'a pas de sens. On voit bien qu'on est en porte-à-faux. Et que sans cesse, on est entre deux mondes. Un appel intérieur à la non-dualité, à retrouver qui nous sommes. Et puis en même temps, piégé dans une illusion fantastique. Une illusion de séparation qui est superbement faite. Tellement bien fait que, évidemment, ça a été un défi fantastique de jouer à ce jeu, et que nous sommes en train de nous réveiller, ensemble, je dis bien ensemble, les 7 milliards que nous sommes, et tout à l'heure, Ravi faisait référence à ceux qui ont choisi des rôles plutôt négatifs, à s'accrocher encore à l'ancien, à l'ego, par peur. Mais la question n'est pas ce qu'ils font, la question c'est comment moi je vais les percevoir. Et là, je reviens à ma perception, parce que tout est une question de perception. Donc, dans ce véhicule humain que j'ai choisi d'expérimenter, en particulier avec la vision des yeux, comment est-ce que je vais voir mes frères et sœurs ? Chez Monsanto, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, là, ça fait en train de, de faire un scoop mondial, cette affaire de transgénique, là. Et comment je vais voir mes frères et sœurs? Mais c'est moi, ça. Donc je les vois dans l'amour. Je vois des peurs. Évidemment, on a choisi une expérience de séparation qui, par définition, implique l'attaque et la défense. La défense, en disant je veux de l'argent, j'ai peur, donc je me protège, je veux du pouvoir parce que je me sens petit, tiens. Je me sens faible. Et ceux qui mènent le monde actuellement et qui ont la puissance, ils en veulent toujours plus parce qu'ils ont peur. Et donc je change ma vision et je ne vois que des petits enfants qui ont peur. Donc je regarde avec les yeux de l'amour. Et donc, quand la leçon 270 me dit « Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui », ça veut dire « Mes yeux me montrent tous séparés, ils me montrent des gens chez Monsanto qui sont là dans leur monde » à essayer de faire de l'argent, à essayer de ne pas être viré de la boîte d'ailleurs, parce qu'ils ont tous peur. Ils ont aussi, pour beaucoup, des enfants, ils ont une vie comme vous et moi. Et puis ils sont là, et ils jouent un rôle parfait. Mais je ne vais pas utiliser les yeux du corps pour les voir. Je vais utiliser les yeux du cœur. Ah, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce que le cœur me dit? Il me parle de non-dualité. Il me dit, regarde bien qui je suis. Regarde bien, parce que ce que tu vois, c'est toi. Parce que Dieu est tout ce qui est. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, où que se pose ton regard, c'est Dieu qui est là, à la source. Va au-delà. Va au-delà. Toujours au-delà. Au-delà. Donc, lâche l'apparence. Au-delà d'un courant miracle. Au-delà de tout. On lâche l'apparence. On lâche les outils. Et on s'en sert en même temps. Bien sûr. Donc, on se sert de tout et on lâche. Et si on regarde bien ce qui est en train de se passer, chez les uns, chez les autres, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir conscience, justement, de ce lâcher-prise. Nous nous passionnons par de nouvelles données, des nouvelles rencontres, des nouveaux livres qui nous tombent dans les mains, des nouvelles façons de voir, des nouvelles occupations entre nous, des nouvelles relations, et en même temps, on les lâche. Et ça va s'accélérer. Donc, n'ayons pas peur de ce profond changement. Et à ce sujet, nous recevons beaucoup de messages qui nous disent qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements. Et inconsciemment, nous interprétons ces bouleversements comme de la souffrance. C'est des bouleversements, il va y avoir de la peur, on va donc être terrifié. Par exemple, si les affaires comme Monsanto s'arrêtent, ou comme... toutes les sociétés pétrolières, les fabricants d'armes, etc. Il y a des millions, des centaines de millions de personnes, enfin des centaines, mais des dizaines de millions de personnes qui n'auront plus de job. Mais tout ça est pris en charge par l'esprit. Donc j'arrête de me dire, ah mais ils ont travaillé dans des usines d'armement, ils ont travaillé à Monsanto, ils perdent leur job, ou ils vont être punis, ou les directeurs vont être mis en prison, etc. Après tout, ils l'ont... Après tout quoi ? J'arrête. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. J'utilise les yeux du cœur, c'est-à-dire la vision d'amour. Parce que l'autre, c'est moi. Et donc, n'importe quel dirigeant de Monsanto, n'importe quel fabricant d'armes, c'est moi. C'est moi dans cette pièce de théâtre où l'esprit joue tous les rôles. Et l'esprit, c'est nous, c'est qui nous sommes. C'est ça la non-dualité. Alors, ça change tout. Et c'est simple. J'ai commencé tout à l'heure quand j'ai pris le micro pour dire, vous pouvez souvent être surpris, être un peu découragé en disant, mais il y a tellement à lire, il faut que je fasse toutes les leçons du cours, il faudrait que je fasse ceci, cela, je fasse tel séminaire. Non, non. Quel est le but de tout ça? C'est retrouver qui je suis. Eh bien, je m'y accroche tout de suite, maintenant, là. Je suis le Fils de Dieu. Tout à l'heure, Ravi nous disait qu'il y a une leçon du cours qui est répétée au moins 3 ou 4 fois la même. Si je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Or, la création de Dieu, c'est l'extension de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Et évidemment, comme nous sommes dans un monde illusoire, avec un temps linéaire illusoire, ce temps est utilisé. Cette illusion du temps. Donc vous remarquez que quand le cours nous dit « Je suis tel que Dieu m'a créé », il fait référence au passé. Mais le passé n'existe pas puisque le temps n'existe pas. Mais c'est didactique. C'est un instrument d'apprentissage, c'est tout. On peut dire que la création de Dieu, elle est instantanée, elle est maintenant. Elle est éternelle. C'est un état. Donc il y a cet état d'être la créature parfaite d'un créateur parfait, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain. C'est, parce qu'il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Ben, c'est maintenant. Maintenant, je suis tel que Dieu me crée. C'est-à-dire, maintenant, je suis l'extension de Dieu. Et tous mes frères et sœurs, y compris les dirigeants de Monsanto et de qui vous voulez, les chefs religieux, les intégristes, tous ces jugements qu'on porte sur des frères et des sœurs qui jouent des rôles, c'est tout. Mais Dieu, ce qui est la réalité, l'amour, ne voit que l'amour en toute chose et en chacun. Rien d'autre. Donc, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Commence à prendre un sens, bien sûr, je vais utiliser les yeux du corps pour me diriger, pour m'habiller le matin, etc. J'allume la lumière pour que mes yeux physiques voient. Mais ils sont au service de qui je suis. Ils sont au service de l'expérience que j'ai choisi de vivre. Tout mon corps ici, qui est illusoire, ce véhicule, est au service de mon expérience, au service de qui je suis, au service de mes frères et sœurs. Et donc, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui, j'utilise les yeux du cœur. Et donc, quand je me lève le matin et que je commence à me réveiller, je dis, maintenant, je veux servir. Allez, utilise-moi. Je veux communier avec mes frères et sœurs, je veux être dans l'amour. Je veux enfin ressentir la présence de l'amour. Et là, on retrouve, puisqu'on la courte introduction du cours en miracle, et vous comprenez après tout ce que je viens de dire, que là, je vais vous la redire encore une fois, elle va peut-être probablement paraître peut-être plus concrète pour vous. La voici. Vous allez voir que le but du cours est très simple, le but, et le but c'est vous. Voilà, voici ce que dit cette courte introduction. Ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux en établir le curriculum du cours. Cela signifie simplement que tu peux choisir ce que tu veux entreprendre à un moment donné. Ce cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, qui est bien au-delà de ce qui peut s'enseigner. En revanche, il vise à ôter ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour. Là, je répète, il vise à ôter ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour. Et la présence de l'amour, c'est ce qui est. C'est vous, c'est moi, c'est ce qui est. C'est tout le monde sans exception, intraterrestre, terrestre, extraterrestre, ange, archange, qui vous laissez l'amour. Il n'y a que ça, rien d'autre. Ce cours vise à ôter ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour. L'opposé de l'amour est la peur. Mais ce qui comprend tout n'a pas d'opposé. Vous voyez, ici, on est dans un paradoxe. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui comprend tout n'a pas d'opposé. Et qu'est-ce qui comprend tout? C'est ce qui est, c'est Dieu, c'est qui nous sommes. Et ça n'est qu'amour. Donc vous voyez là tout de suite, dans cette introduction, il y a deux niveaux apparents. L'un est réel, l'autre n'est pas réel. Mais on s'occupe du niveau non réel, c'est le rêve. C'est le premier, l'opposé de l'amour et la peur. Dans cette illusion, dans cette expérience humaine que nous avons choisie, effectivement, l'amour semble avoir un opposé, la peur. Et c'est utilisé dans un processus de réveil. Mais ce qui comprend tout n'a pas d'opposé. Et il n'y a pas d'opposé en réalité. Donc cette non-dualité dont nous parlons, elle est hyper simple. Et vous pouvez vraiment trouver des réponses à tous vos problèmes. Tous, sans aucune exception, en revenant toujours à la réalité de qui nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Qu'est-ce que la vie? Et là, c'est incroyable. C'est d'une magnificence, c'est infini. Donc c'est sans cesse un éternel mystère à l'infini, d'une beauté inimaginable qui nous subjugue totalement. C'est incroyable. Comment cela se fait? Alors on est là à savoir qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf et la poule, ou la poule ou l'œuf, etc. Et puis on éclate de rire parce qu'on ne peut que, comme des petits enfants, que de s'émerveiller. On ne peut que s'émerveiller devant la réalité que nous vivons. Et à ce moment-là, la vie devient un délice. Devient une expérience amoureuse en permanence. Et c'est ce que nous sommes en train d'atteindre, ou de retrouver, on va dire. Et c'est ça la non-dualité, c'est facile. Très facile. Très facile. Alors, tout ce qui semble compliqué, on peut vraiment éclater de rire. C'est une blague cosmique. C'est tout. Toutes nos difficultés, tout ce chaos sur cette terre, c'est une bonne blague. Et je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Bien sûr, je vais les utiliser pour me diriger, bien sûr, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire, moi, je veux avant tout les yeux du cœur. Je veux voir mon frère et ma sœur à côté de moi, ou en face de moi, ou à qui je pense, et dire vraiment, je t'aime et je sais que tu m'aimes, et on s'aime, il n'y a que ça de réel entre nous. Et nos relations, toutes nos relations, les 7 milliards que nous sommes ici, sont des relations amoureuses. Parce que je le décide. Parce que je le décide. Il en va de même avec mes relations extraterrestres. Donc quand on parle de petits gris, ou etc., de reptiliens, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux utiliser les yeux du cœur avec tous les extraterrestres, avec tous les intraterrestres, avec tous mes frères et sœurs. Et les yeux du corps vont me dire, un tel est un homme, est une femme, a tel comportement, a telle formation, etc. Ça, c'est les yeux du corps, c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais en amont de ça, avant ça, j'utilise les yeux du cœur. Et ensuite, à mon service, dans cette expérience, je vais me servir des yeux du corps, mais dans une relation, dans des relations amoureuses, avec tous ceux que je vois ou auxquels je pense, sans aucune exception.
Moi, j'ai tiré la leçon, c'est la leçon, c'est ça, 258 du courant miracle qui dit que je me souvienne que mon but est Dieu. Voilà. Et ça peut paraître intimidant, mon but est Dieu. Et aujourd'hui, quand j'ai des vagues de découragement, parce que je me dis que c'est vraiment très ambitieux, j'essaye de me remettre dans les petites choses du quotidien. Par exemple, en ce moment, j'ai une démarche de dépouillement. Et d'ailleurs, il y a Darpan, qui est un éveillé, qui parle de dépouillement personnel au lieu de développement personnel. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que voilà, je trouve ça humoristique, le dépouillement personnel. Et ça me parle beaucoup parce que c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose de triste, c'est pas de la perte, mais c'est vraiment de l'allègement. Et ça me met en joie. D'ailleurs, je me sens de plus en plus légère grâce à du tri, qui se fait d'ailleurs, j'ai aussi des relations qui s'auto-détruisent, donc je n'ai rien à rejeter, ça devient obsolète. Donc, parfois, il y a un peu de tristesse, mais en même temps, je lâche, je me dis, bon, ben voilà, je suis fatiguée de forcer, de retenir, de continuer ce qui n'a plus de sens. Par exemple, j'avais fondé une marque il y a 14 ans, et là, aujourd'hui, je ne suis plus dans la même inspiration, donc j'accepte de lâcher, de clôturer, parce que et je ne me sens pas triste, mais je sens que le moment est venu, qu'il y a autre chose qui vient à la place. Voilà, j'accepte de faire un peu un pas dans le vide et puis je me rends compte que ben, une autre inspiration arrive, qu'elle me met en joie, que je peux partager différemment et que l'argent va suivre. Et tout ça est concret, c'est des petits pas, mais finalement qui servent ce but qui est Dieu. Voilà, pour moi, ça prend cette forme-là d'accepter que mon âge avance, mais en fait, finalement, j'ai l'impression de me connaître mieux et de déblayer et de désencrasser, de déboucher des tuyaux, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de joyeux. Et justement, par exemple, chez moi, j'ai moins d'affaires. Mes affaires que j'ai, je m'en sers. J'ai au mur des images qui me permettent de me concentrer, des images de beauté, des sages, parce que je me dis que ces images ont aussi un aspect concret, correspondent à une démarche que j'ai et rentrent dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Effectivement, je fais des rencontres parfois de personnes qui ressemblent aux images que j'ai chez moi. Enfin, je sais que tout ça devient très concret. Et le matin, par exemple, je me mets dans un... J'ai une amorce pour me mettre dans l'amour. C'est de remercier, d'être dans la gratitude. Et ça me fait un peu une douche d'amour. C'est une réponse assez rapide dans le corps qui vient ou par exemple quand je suis dans le métro et que je suis un peu stressée parce qu'il y a la proximité. Bon, j'adore être dans le métro, je m'ennuie jamais, je trouve ça très intéressant, mais parfois je trouve ça un peu fatigant, il y a du bruit et je me dis mais la beauté est là parce que j'ai aussi une formation visuelle. Et je suis en train, je vois que j'arrive plus à acheter des magazines féminins, ça me parle plus du tout. Je m'ennuie, donc je les achète plus, et que je me mets à voir la beauté ailleurs. Et quand je vais dans les transports en commun, je sais que c'est un bon truc de rester connecté à une forme de beauté qui n'est pas forcément la beauté de la façon dont on est habillé, mais la beauté est là. Et au bout d'un moment, je reperçois la beauté. Voilà, donc c'est des choses concrètes. Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup parlé, c'est André Siméon, qui est un guérisseur, qui guérit par le verbe. Et lui, il dit que Dieu parle à travers lui et que quand on peut très bien appeler Dieu et dire « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup. De marcher dans la rue, par exemple, si je me sens un peu déconnectée, si je me sens plus dans l'amour, si je commence à trouver que c'est pas beau autour de moi, que si je ne vois que le négatif, je me dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et voilà, ça me permet de me reconnecter. Il y a tout de suite une sensation agréable, quelque chose de diffus. C'est comme si un peu le plafond se relevait, voilà, ou avec des petits gestes, par exemple, il y a quelques jours, un monsieur dans la rue, qui avait l'air assez bien habillé d'ailleurs, s'approche, et il me dit, voilà, est-ce que vous auriez quelques centimes pour m'acheter une baguette de pain ? Alors je me dis, il est un peu gonflé quand même, il a l'air bien habillé, bon... Et je lui dis, vous savez, je suis à découvert en ce moment. Franchement, c'est pas le moment. Et puis, je lui ai dit, attendez. Et finalement, j'ai regardé dans mon porte-monnaie. J'avais quelques centimes, je lui ai donné. Il était content. Et je me suis rendu compte que j'étais très contente aussi. Et en fait, de répondre, ça m'a permis de vivre ça. C'est-à-dire, effectivement, j'avais quelques centimes. Je ne me suis pas sentie dépouillée parce que ça n'a pas changé vraiment mes achats. Et je me suis dit, mais au fond, je n'ai pas rien, puisque j'ai quand même des centimes dans mon porte-monnaie. Et ça m'a permis de faire cette démarche. Et en plus d'être dans un principe d'abondance où, justement, quand ça m'arrive de me sentir fauchée matériellement, là, je me dis, je ne peux pas donner. Mais en fait, si, j'ai donné. Même si c'était symbolique. C'était un cycle. C'était vivant, c'était, il y avait un fluide, il y avait quelque chose, il y a eu un échange, on s'est parlé, il y a eu un sourire. Voilà, et c'est, je me suis sentie beaucoup plus légère. J'étais très contente d'être sortie à ce moment-là, au fond. Voilà, donc c'est des petites choses, mais finalement, qui peuvent faire en sorte de se connecter à un principe d'amour qui est là.
Merci pour ce beau partage. Ça fait résonner en moi tout de suite la gratitude que j'ai pour que nos villes, nos municipalités mettent à notre disposition un service qui est appelé le ramassage des encombrants. Alors, tout ce qui vous encombre, vous savez où le mettre. Vous pouvez le mettre sur le trottoir. Et symboliquement, c'est des objets. Et en effet, moi, je vois que j'ai une nature qui conserve les choses. Et en même temps, je me sens encombré par cet amas de choses. Donc, je cherche le site des encombrants sur Internet. Et puis, comme par hasard, j'arrive plus à le retrouver. Je vois plus les dates, je vois plus le calendrier. Et puis, les choses, ça s'amassent. Et puis, c'est un fait, et j'ai de la gratitude pour que, symboliquement, les municipalités acceptent de nous désencombrer. Donc, ce n'est pas qu'un mot, hein. Quand je fais le ménage chez moi, je fais le ménage aussi dans ma tête. Quand je fais de l'ordre chez moi, je fais de l'ordre dans ma tête. Et quand je vais déposer les encombrants sur le trottoir, je me désencombre psychologiquement. Donc oui, j'ai de la gratitude pour le fait que les municipalités proposent ce service. Et moi, je vous invite vraiment à en profiter. Même si vous déposez une toute petite chose, le fait d'avoir l'impulsion et l'initiative de vous désencombrer, d'extraire une chose qui n'a pas d'utilité chez vous et de la déposer sur le trottoir, c'est de nature à récupérer plus d'énergie avec moins d'encombrement intérieur. Ça me paraît important. J'ai des témoignages de personnes qui vivent des petits miracles suite à un dépouillement, justement, à un dépouillement de leur intérieur. Ça, est-ce que pendant la dernière année, je l'ai utilisé? Non. Ça veut dire que ça n'a pas d'utilité. Hop, ça m'encombre. Et je me désencombre. Et ce dépouillement, en fait, il peut être physique et forcément un petit peu symbolique. Il est relié à retrouver notre nature profonde qui n'a pas besoin d'une foule d'objets pour vivre le bonheur d'être la création de Dieu. Alors, on peut aussi se dépouiller, se désencombrer de tas de choses qui apparemment sont connues de notre mental. Et j'ai ouvert tout à l'heure au hasard, enfin, en synchronicité, dirais-je à présent, que je ne crois plus au hasard, ce très beau livre, L'Évangile selon Jésus. Et je peux m'apercevoir qu'il n'est pas une page que j'ouvre de ce livre sans trouver une véritable perle. Et ce chapitre-là, à la page 240 du livre, il s'appelle « Abdiquer le savoir ». C'est magnifique. Alors, j'ai commencé au milieu du chapitre par une phrase très parlante. « Votre vie est un dialogue permanent entre votre expérience et l'interprétation que vous en faites. » Vous savez de plus en plus que votre souffrance n'est pas causée par les événements, mais par le sens que vous leur attribuez. Il y a néanmoins des fois où vous résistez à votre expérience et avez du mal à en assumer la responsabilité. C'est à ces moments-là que vous êtes mis au défi d'approfondir votre pratique spirituelle et d'avoir une expansion de conscience pour dépasser ce que vous savez ou anticipez. Ce qui bloque le plus votre relation au divin est votre croyance que vous détenez déjà la connaissance. Cette croyance vous retient prisonnier de vos propres interprétations subjectives. Ce que vous pensez savoir n'est que votre peur qui s'affirme. Votre description de la réalité n'est pas la réalité. Au contraire, elle limite la réalité pour correspondre à vos préjugés, vos jugements et vos croyances erronées. En fin de compte, vous devez abdiquer de ce que vous pensez savoir afin de découvrir ce que vous avez besoin d'apprendre. « La connaissance spirituelle ne vous aide pas à contrôler et à manipuler votre vie ou celle des autres. Elle ne vous permet pas de prédire des événements ou d'interpréter leur signification. C'est un savoir qui vous permet de regarder à l'intérieur, de voir au travers du voile de vos réactions subjectives, d'apprendre à apprécier l'essence de la vie telle qu'elle se présente, sans l'affubler de votre propre signification. La connaissance spirituelle consiste davantage à ne pas savoir qu'à savoir, à se vider plutôt qu'à absorber. Voilà, chaque phrase est éminemment parlante pour moi, et c'est aussi une forme de désencombrement, hein, ce qui est dit dans ces phrases par Jésus. Donc l'auteur ou le canal, c'est Paul Ferrini, l'Évangile selon Jésus dans les éditions Auxus. Il y a quelques exemplaires en vente ici et j'en commanderai d'autres au fur et à mesure, ainsi que des exemplaires des ouvrages majeurs tels que Un cours en miracle et Dialogue sur l'éveil et bien d'autres. Voilà, un petit instant de danse au son du téléphone qui sonne. Merci pour cette récréation. J'adore la valse. J'espère que vous dansez avec nous. Fin de la récréation. Non, non. Encore un petit pas de danse. Bon, oui, en effet, j'ai pas éteint le téléphone. Merci, l'esprit. Voilà, alors, abdiquer du savoir, c'est extraordinaire pour moi comme sens, ce que ça a. Puisque ce que je sais est différent de ce que je connais. Ce que je connais, c'est mon intime vérité, ma nature, et ma nature, c'est l'amour. Et je connais l'amour parce que je suis amour, c'est impossible d'oublier cette connaissance-là. C'est possible de la voiler, mais le soleil a beau être voilé par le nuage, il brille toujours. Et cette connaissance ne peut pas s'oublier, ne peut pas s'éteindre, elle peut être que masquée provisoirement. Mais par contre, ce que le mental a appris, ce que le mental accumule, c'est aussi des tas d'encombrants qui un jour auront à être déposés sur le trottoir pour que dans ce dépouillement, la lumière passe plus facilement. Lorsque mon esprit est désencombré, je peux savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Si mon esprit est très encombré par « Ah, il me faut absolument le dernier iPhone à la mode », ou alors « Je veux la Ferrari jaune qui roule à 300 à l'heure », ou « Je veux être connu, apprécié », ou alors « Vous avez vu qu'est-ce que je suis intelligent, parce que j'ai lu plein de livres ». Et aussi, j'ai fait énormément de séminaires. Hein. Et j'ai fait une thèse, et puis une autre thèse, et puis encore une autre thèse. Donc, je suis quelqu'un de valable, hein, avec une valeur qui est seulement du savoir accumulé, cérébral, hein, qui repose sur ce monde. Ce monde qui est temporaire et illusoire et qui véhicule aussi des valeurs temporaires et illusoires. Donc je peux me baser sur la demande d'appréciation, la demande de reconnaissance avec tout ce savoir, ou je peux me sentir rempli illusoirement avec ce savoir, ça ne me rendra pas heureux pour autant. Le vrai bonheur vient du fait que je connecte ma nature profonde, que je me connecte à l'amour, que j'agisse avec amour, par l'amour et dans l'amour. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai besoin de désencombrer les croyances fausses. Hein, et tout ce qui est subjectif, tout ce qui tient à l'ego, est de nature à freiner ma perception de la lumière. Donc, je me désencombre en autorisant l'expression de tout ce qui remonte comme émotion qui m'encombre justement, qui m'empêche d'apprécier la joie d'être vivant, d'être dans la vie, dans l'existence avec Dieu, de partager la vie de Dieu, une seule vie, une seule existence qui n'a pas de début et pas de fin et qui est joie infinie, éternelle. Voilà, parfois je peux la ressentir simplement en regardant les gens dans un wagon de métro, oui. J'ai fait l'expérience de demander à changer de regard intérieur et à considérer tout le wagon comme un ensemble de dieux et de déesses, de personnes hautement valables et appréciables. Et mon ego n'aimait pas tellement ça, et il me disait des phrases comme « pas celui-là quand même ». Je disais « si, si, celui-là aussi ». « Pas le mendiant qui pue à 3 mètres ». « Si, si, surtout celui-là ». Parce que celui-là, il a encore plus besoin d'être aimé que les autres. D'être valorisé et apprécié, mais pas avec la valeur que la personnalité donne, qui dit « tu es un mendiant, donc tu as raté ta vie ». Tu es un riche PDG ou actionnaire, alors tu as réussi quelque chose. Le mendiant ou le PDG, ce sont mes frères de cœur, mes frères chéris, qui me présentent des opportunités de choisir l'amour ou de choisir la peur. Et à chaque fois que je choisis la peur, j'aurai assurément une autre opportunité de rechoisir. Parce que la dualité est ainsi faite que les leçons qui ne sont pas apprises sont représentées. Si je suis dans une classe et que je ne retiens pas la leçon, je reviens dans la classe. Et quand j'ai appris finalement la leçon, et la leçon c'est « aime ton prochain comme toi-même hein, » ou « il n'y a que l'amour ». Et donc, n'enseigne que l'amour parce que c'est ce que tu es. Hein, c'est une phrase du cours en miracle. Quand j'ai appris ça, ben, j'ai plus besoin d'autres confrontations et d'autres choses pour m'enseigner cette leçon. L'univers étant le résultat de mes pensées, je ne vais plus me créer des opportunités de rechoisir une chose que j'ai assurément choisie d'une manière certaine. Donc, je peux choisir l'amour et assurément fabriquer un monde à l'intérieur de l'illusion qui est un rêve heureux dans lequel les situations vont me rappeler l'amour. Toutes les situations de ma vie vont me rappeler l'amour parce que les situations non issues de l'amour, je les ai résolues. Je les ai résolues en choisissant l'amour. Donc, ça paraît très simple. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, ça demande de désencombrer des choses, de lâcher des croyances qui ne servent plus, des conditionnements qui ne nous appartiennent pas, qui sont ancrés, et de les remettre en question aussi. Est-ce que je dois dire bonjour à la dame? Est-ce que je dois traverser dans les clous? Est-ce que je dois... faire ce que mes parents ont fait, m'ont enseigné. Est-ce que je dois agir en fonction de ce que me dit ma religion ou pas? Donc, chaque fois que je rajoute ou pas derrière une question, je suis libre. Je suis libre de choisir oui ou de choisir non. Et je choisis non joyeusement à tout ce que je veux lâcher et qui m'encombre et qui ne me parle pas, dont je ne ressens pas la vérité. Par exemple, aie une bonne carrière, mon fils, hein, pour te marier, avoir des enfants et une vie heureuse. Ou pas. Oui, papa, ou non, papa. Hein, ou non, maman. Voilà. Et si ça me parle joyeusement, j'adopte, j'acquiesce. Et si ça me parle pas, je laisse... mon esprit basé sur l'amour qui me guide, qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse ou que je dise maintenant, hein, et qui reflète la vérité. Et la seule vérité, c'est l'amour. Il y a beaucoup de façons de détourner la vérité, mais il y a une seule façon d'affirmer la vérité, c'est d'aimer. Et en vérité, aimer, c'est très simple. Résister à l'amour, c'est beaucoup plus difficile qu'aimer. Parce que résister à l'amour est ce qui nous engendre une vie avec des souffrances. Qu'est-ce qui est plus facile, aller dans le torrent et se laisser porter, ou s'accrocher aux branches, ou essayer de nager à contre-courant? La réponse est évidente. Donc le courant de l'existence, c'est l'amour. Si je lâche prise de mes croyances, des branches du rivage, et que je me laisse porter, il n'y a aucun effort à faire. C'est au contraire, c'est lâcher l'effort. L'effort qui consiste à résister à l'amour, c'est croire que autre chose que l'amour puisse exister, et que cette autre chose va me rendre heureux. Et force est de constater, avec nos expériences de vie, que la plupart des choses prônées par l'ego, la partie de nous qui se croit séparée de Dieu ou de l'amour, qui est en fait la même chose, Dieu est amour, la plupart des choses prônées par l'ego se révèlent être des impasses en ce qui concerne mon bonheur, en ce qui concerne mon épanouissement, en ce qui concerne voir la lumière et reconnaître la source d'où je proviens. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'occasion nous est donnée d'affirmer ça, de nous rappeler de cette vérité inchangeable. J'ai parlé.
Tu viens de nous rappeler de nous abandonner, de lâcher et d'aller avec le courant. Et dans les questions que tu avais posées au début de ce groupe, tu parlais, et une des questions c'était « qu'est-ce que le plan divin ?» Et là on touche à quelque chose de fondamental qui peut vraiment nous aider les uns les autres d'une manière extrêmement pratique. Je suis invité à lâcher. Je suis invité à voir que rien dans ce monde n'a de valeur. Tout à l'heure, Virginie nous parlait de son expérience avec quelques centimes à un mendiant, quelqu'un de bien habillé qui lui demandait d'acheter une baguette de pain, et en fait, qu'elle lui donne 50 euros, 200 ou 3 centimes, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur. Qu'elle lui donne de l'argent ou qu'elle ne lui donne pas d'argent n'a aucune valeur. Ce qui est important, la seule chose, c'est comment elle voit et comment moi je vois tout. Avec quels yeux? Avec les yeux de l'amour, les yeux de la peur. Et donc, on voit bien que nous sommes invités à lâcher, lâcher, lâcher. Et accueillir aussi nos limites. Lâcher tout à cause du plan divin. Qu'est-ce que c'est que ce plan divin? C'est un plan qui est infini, donc il n'a aucune limite, donc il est parfait, et qui tient compte de chaque individualité à la virgule près, dans chaque atome de chacun d'entre nous. Le moindre détail de notre expérience dite personnelle est pris en charge, pris en compte. Donc c'est fantastique. Et donc, dans toutes circonstances, on est appelé effectivement à dire, bon, je veux le plan divin, j'arrête d'essayer d'arranger les choses avec ma petite cuillère à soupe là, et de vouloir arranger parce que j'ai peur. Et finalement, inconsciemment, je me dis que, ok, Dieu s'occupe des grandes choses, le Saint-Esprit c'est très bien, mais mon petit quotidien là, mes 350 euros qui me manquent pour la fin du mois là, etc. Non, je donne encore des valeurs positives, négatives, et là, je suis appelé à lâcher. Et ça me fait peur, éventuellement. C'est pas nier ça. Et c'est pour ça que ce plan divin devient quelque chose de fondamental. Et donc, nous sommes invités les uns les autres à lâcher, lâcher, lâcher. Pas lâcher presque tout. Lâcher absolument tout, sans aucune exception. Et lâcher absolument tout ne veut pas dire réussir à lâcher tout. On parle d'intention ici. Jésus, il y a 2000 ans, travaillait jusqu'au dernier jour sur lâcher. Donc s'il travaillait jusqu'au dernier jour sur le lâcher, c'est parce que ce n'est pas évident et qu'on est tenté de ne pas lâcher. On voit ça maintenant dans des écrits comme l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, de Regina Donnekers, qui va bientôt paraître en français, ou sur la voie de la maîtrise, de Jaïm aussi, qui va bientôt paraître en français aussi, où Jésus nous donne des informations, où l'Esprit nous donne des informations justement sur ce personnage qui nous fascine quelque part, qui joue un rôle majeur sur cette planète, qui a joué un rôle majeur, mais ce n'est qu'un rôle. Et le rôle est joué par l'Esprit, et non pas par une personnalité particulière. Donc Jésus n'est pas plus que nous, comme il disait d'ailleurs, et qui n'a pas été compris. Néanmoins, c'est un exemple assez extraordinaire, fascinant. Et jusqu'au dernier jour, il travaillait sur faire attention à ses pensées, à ses jugements. Quand il est revenu pour la Pâque, le fameux avec l'âne, avec le dimanche des rameaux là qui est fêté, et que quelques jours après il allait être condamné et crucifié, il a revu les vendeurs du temple, parce qu'il était surtout en Galilée. Il a revu les vendeurs du temple, et Pierre qui était là l'a regardé et a dit oh, il y a quelque chose qui ne va pas, et Jésus est parti. Il s'est isolé. Et Pierre, ainsi que deux autres apôtres, ont senti qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Et en fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme nous dit le Saint-Esprit, c'est que Jésus s'est aperçu qu'il jugeait encore les vendeurs du temple, comme il l'avait fait avant quand il a vu cette colère. Et donc il s'est dit, je les juge encore. Au lieu de les comprendre en pleine compassion. Je ne cautionne pas leur agissement, mais je les juge. Et donc il est parti méditer. Et quand il est revenu, il a dit à Pierre, « Pierre, surveille tes pensées. » Ça veut dire, « Je surveille les miennes. » Et quand c'est aussi dit que le dernier jour, pourquoi je dis le dernier jour ? Parce que jusqu'au dernier jour, ça a été ce qui s'est passé. Et dans le jardin de Gethsémani, quand il a senti la peur de la mort et qu'il avait été angoissé, et qu'il a demandé à trois disciples de venir avec lui, pour prier avec lui, comme c'est d'ailleurs raconté dans les évangiles canoniques, eh bien, il est parti à l'écart de ses trois disciples, et puis quand il est revenu, il dormait. Pourtant, il leur avait dit, venez prier avec moi, donnez-moi une heure de votre temps. Et quand il les a vus, il les a réveillés en disant, mais vous ne pouvez pas prier avec moi quand même. Et là, il s'est aperçu qu'il les jugeait encore. Et donc, il les a laissés. Tout de suite, il est reparti pendant une heure méditer et faire silence. Alors quand même qu'il savait qu'il sentait bien la mort qui était là. Et ensuite, il est revenu au bout d'une heure. Il les a retrouvés qui dormaient. Et le Saint-Esprit nous dit qu'à ce moment-là, il aura souri. Donc il y a eu une guérison, il y a eu un finish qui s'est passé en Jésus. La boucle était bouclée. Il est reparti une heure méditer, puis il est revenu. Il les a réveillés et il leur a dit, venez. Et il est parti à la crucifixion à ce moment-là. C'est ensuite qu'il a été arrêté dans le jardin, parce que les soldats sont arrivés avec Judas, qui jouait son rôle parfait. Qui ne croyait pas du tout que Jésus allait être crucifié. Il avait très confiance en Jésus, mais il avait besoin d'argent, donc il a fait ça. C'était son rôle, c'est tout. Et donc il est parti. Jésus est parti avec les soldats dans une paix incroyable. Il est parti à la crucifixion dans une paix totale. Alors ça, c'est intéressant de voir que jusqu'au dernier jour, il travaillait sur ses jugements, comme nous. Comme nous, parce que dans l'expérience humaine, c'est pas évident. Donc on s'accueille avec cette expérience humaine. On s'accueille avec ses insuffisances. Et Jésus nous dit dans la voie de la maîtrise de Jaïm que, comme il avait fait beaucoup de voyages avant son enseignement en Galilée, qui a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans, avant la crucifixion, mais avant, de 14 ans à 29 ans, en gros, ou de 15 ans à 30 ans, enfin à peu près une quinzaine d'années, il a fait beaucoup de voyages avec des initiations au Tibet, en Inde, en Égypte, en Angleterre, dans des centres celtiques. Et là, il était en contact avec des initiés, il a fait des choses très longues, et il a énormément appris avec des maîtres. Et il dit lui-même que quand il s'est vu ensuite en Galilée, avec des gens simples qui étaient là, alors que lui venait faire 15 ou 16 ans de voyage, avec énormément de formation, de travail sur lui-même, etc., Et comme il voyait des miracles qui se passaient à son contact, il dit, j'ai été tenté de récupérer ne serait-ce que 10% pour moi-même, en disant quand même, j'ai quand même une certaine valeur, parce qu'après tout le boulot que j'ai fait, là, ça fait 15 ans de balade avec un travail inouï, c'est quand même pas rien. Donc, j'étais tenté, dit-il, de reprendre peut-être 10% pour moi personnellement. C'était une tentation. Et cette tentation, elle fait partie de l'expérience humaine. Donc maintenant, les uns les autres, nous sommes invités à vraiment accueillir nos tentations, accueillir nos sentiments d'avoir besoin d'être connus, d'avoir besoin de gagner de l'argent, d'avoir besoin de se sécuriser, d'avoir cet ego qui nous colle à la peau. Évidemment, on l'a choisi. Donc au lieu de s'y opposer ou de se sentir coupable, ça change tout, on dit mais non. Non, j'ai choisi cette expérience. C'est normal, il y a un ego. C'est normal, je suis tenté d'avoir des peurs, d'essayer d'être connu. Et le fait de l'accueillir, c'est-à-dire de l'aimer, parce que c'est pareil, l'amour, c'est l'accueil. Donc je m'aime avec cette fragilité humaine, ces fragilités humaines, cette vulnérabilité apparente. Et c'est fondamental, et c'est là que c'est la clé. Au lieu de m'y opposer, de le cacher, de prétendre que je suis un éveillé, que je suis un maître, etc., j'arrête, ça n'a aucun sens. Mon rôle n'a aucune valeur. Jésus lui-même me disait, avant d'aller en Israël l'année dernière, même les rôles que j'ai joués, me disait-il, et j'en parle en connaissance de cause, ça veut dire j'ai été humain, hein, comme vous, alors qu'il y a d'autres êtres dans l'univers qui n'ont jamais été humains, j'étais humain, et donc, même les rôles que j'ai joués en eux-mêmes ne sont pas significatifs. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous le Christ. Donc les rôles n'ont rien à voir avec qui nous sommes. C'est un jeu temporaire joué par un seul esprit. Et c'est ça aussi une des grandes clés du courant miracle, qui est très précis là-dessus, en particulier cette fameuse leçon 135, cette phrase dans la leçon 135, qui dit, et je la répète, et j'adore me la répéter à moi, « Que ne pourrais-tu accepter ?» Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un, U-N, U majuscule, l'un, en anglais c'est one avec un O majuscule, par l'un dont le seul but est ton bien, et le bien de tous. Ça veut dire en clair que c'est l'esprit qui s'occupe, qui fait tout. C'est ça le plan divin. L'esprit fait tout. Alors on va dire, mais comment c'est, puisque l'esprit fait tout, comment ça se fait qu'il y ait des accidents, etc. Parce que nous le voulons. Et c'est ça la grande difficulté, c'est de vraiment prendre la pleine responsabilité de notre expérience. Bien sûr, on n'a pas envie de souffrir. Mais on choisit des accidents, on choisit des choses comme ça parce que, quelque part, on a une culpabilité profonde, des peurs profondes, et on préfère un certain accident plutôt qu'autre chose, au niveau de l'âme, au niveau de l'expérience. Et maintenant, le fait de le regarder en face, nous arrivons au nouveau où nous pouvons choisir. Ça a été d'ailleurs le troisième message qui avait été reçu par Sylvain Didlot et moi, qui était que la vie est repassée sur son site. Vos pensées sont les propositions divines. Maintenant, nous prenons conscience de ça en disant, j'ai telle maladie qui arrive, ou j'ai telle... Ou, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que j'ai envie d'être malade ? Non. Et puis si j'ai envie, oui. Bon, ben ok. C'est ok. Dieu dit oui à tout, effectivement. Seulement maintenant, nous commençons à en prendre conscience de notre pouvoir infini en tant que cette culpabilité qui m'a poussé à choisir des accidents, des difficultés, des situations qui m'ont été très pénibles dans des vies passées, à moi et à mes frères et sœurs. Terminé. Mes pensées sont des propositions divines. Tu peux... C'est oui ou c'est non ? Non, je choisis non. Oui, mais quand même, j'ai le corps qui vieillit, j'ai pas envie de vieillir et puis d'être limité. Qu'est-ce que je choisis ? Je suis ici pour servir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas l'aspect de mon corps, c'est ce corps, je l'offre pour le service. Et à ce moment-là, ça va être ma joie. Si par exemple, on a vu, vous avez pu voir les uns les autres, puisque c'est paru, on a tous, presque tous vu cette vidéo de ce... Cet Américain qui n'a ni bras ni jambes et qui a un rayonnement incroyable, il va dans des stades avec 20 000 personnes ou 30 000 personnes, il dit, mais au début, quand j'étais petit, même quand j'avais 8 ans dans mon bain, j'ai voulu me suicider, j'ai voulu me noyer, bon, je suis pas arrivé. Et puis j'ai dit à Dieu, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai pas de bras et de jambes? Et finalement, il a pris conscience en disant, mais qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux donner avec ça? Et il dit, maintenant, mais je suis dans une joie pas possible parce que ce que vous considérez comme une tare, puisque je n'ai ni bras ni jambes, ça me permet d'avoir des contacts incroyables, de voir énormément de gens et d'observer des guérisons, des enthousiasmes, des joies incroyables. Mais quelle merveille! Et donc, il est en train d'accueillir complètement son expérience. Et mes pensées sont des propositions divines. Donc, sa pensée, c'est une proposition divine. Alors, au début, il priait en disant « Je veux avoir des bras et des jambes. » Et maintenant, il dit « Merci. Merci. J'ai choisi ce que je voulais vraiment vivre. Et donc, je suis dans la joie et le bonheur. » Évidemment, c'est un exemple extrême. Mais c'est magnifique. C'est magnifique.
Je voudrais vous raconter une expérience, enfin une scène que j'ai vue. J'étais dans le métro et c'est drôle, ça m'a fait penser au cours en miracle. Donc il y avait un papa avec un petit garçon et la grand-mère. Donc on était dans la rame de métro et le père et son fils jouaient et le père avait dans sa main un fil avec un ballon et il revenait certainement d'une fête foraine ou enfin bon c'était un ballon, c'était joyeux bon. Et à un moment il s'arrête un peu de jouer et le père vient cogner la tête du fils mais doucement avec le ballon et le petit garçon au lieu de se retourner contre son père il tape dans le ballon un peu pour montrer sa colère. Et j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, au fond, ça ressemble à l'attitude qu'on a dans la vie où, au lieu de s'occuper de la cause, on voit les faits. Donc, au lieu de son geste, au lieu de le tourner vers son père qui était la source du geste, il a vu le ballon. Mais en fait, c'était pas l'intention du ballon de venir lui cogner la tête. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que c'était un enfant. Mais en fait, je trouve que ça s'applique totalement à la vie courante. Où on voit que finalement, là, c'était un jeu. C'était fait avec amour. Lui, le petit garçon, était un peu fatigué. Il en avait marre de jouer. Et donc, il n'était plus dans le jeu, il le prenait au sérieux, il se retourne contre le geste, mais contre le ballon, alors que c'est pas le ballon, c'est pas l'intention du ballon. Voilà, donc pour moi, ça a illustré totalement le cours en miracle qui parle d'illusion. Et ça me permettait aussi de voir ça dans une scène pleine d'amour et illustrer que parfois il n'y a pas de colère à avoir. Voilà, tout ça n'est qu'amour.
Et ce que tu dis là me ramène au fait que chacun choisit totalement son expérience. Alors, très bien. Souvent, on dit « Ah oui, c'est vrai. » Et puis, on ne voit pas très bien ce que ça implique. Mais on peut y aller ensemble. Chacun choisit totalement son expérience. On va dire pourquoi tout de suite ? Parce que chacun est le Christ. Et donc, à l'origine, à la source, personne n'impose rien à personne. Ça n'a aucun sens. Dieu ne s'impose rien par quelque chose d'extérieur à Dieu. Dieu s'amuse, ça n'est qu'un jeu. Donc, et le cours en miracle est très précis là-dessus, en particulier. Personne ne peut rien faire à personne. Et Jésus dit d'ailleurs, on dit qu'on m'a mis sur une croix, etc., qu'on m'a torturé, etc. Ce n'est pas une perception que je partage pour moi-même. J'ai choisi mon expérience, c'est tout. Dans un but D'ailleurs, je rajouterai qu'il n'y a pas trop été compris. Donc chacun choisit son expérience. Ça veut dire que les 7 milliards que nous sommes ont choisi leur expérience. Et ça, donc, je redonne à chacun qui il est. C'est le fameux namasté indien. Je te salue. Et c'est aussi le blessing anglais, le blessing, la bénédiction, je te bénis. C'est-à-dire, je te redonne qui tu es. Et c'est ça, ce qu'on peut vraiment donner, c'est l'identité, la vraie identité. L'identité, c'est l'identité divine, c'est l'identité de fils de Dieu, c'est-à-dire d'expression de la vie. C'est Dieu lui-même qui vit, qui se donne à lui-même, qui s'exprime lui-même. Dans cette pièce de théâtre, imaginée par le Fils, par qui nous sommes. Et donc tous mes frères et sœurs sont le Christ, sans aucune exception, il ne peut pas en être autrement. Donc toutes ces histoires qui se passent actuellement sur cette planète, avec ce chaos apparent, ces profonds changements qui s'accélèrent, qu'on va voir, changements de société, avec effectivement des cartels qui vont tomber de plus en plus, des changements de façon de vivre, des gens qui vont peut-être être temporairement écartés, mis un peu à l'abri, à l'ombre, etc. Qui sait ça? C'est des frères et sœurs qui ont choisi leur expérience par amour, pour un jeu global. Un jeu humain énorme et qui fait partie d'un jeu cosmique. C'est pour ça que tout l'univers entier est concerné par la planète Terre. Parce qu'il y a un jeu global, il n'y a pas deux jeux ou trois jeux ou mille jeux, il n'y a qu'un seul jeu. Et ce jeu est cosmique, c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une bonne blague cosmique tout ça. Ça commence à prendre un sens. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement incroyable, qu'au ras des pâquerettes, dans un petit microcosme qui est la Terre, là, la petite planète bleue où nous sommes, ça semble être chaotique, oui, c'est pas nié ça. Mais en fait, tout va bien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a que le Fils, comme dit le cours en miracle de Sonship, la filialité, c'est-à-dire, il n'y a que la vie, le vivant. Ce n'est qu'un jeu. Et donc, la question pour moi, puisque c'est toujours pour moi, c'est ma perception. C'est comment je vais regarder, avec quel regard je vais regarder ce qui semble être extérieur à moi, c'est-à-dire la planète, c'est-à-dire mes 7 milliards de frères et sœurs, etc. Et puis aussi les étoiles et les extraterrestres, etc. Si je regarde un peu plus loin. Qu'est-ce que je choisis de voir? Et donc, je reviens avec cette leçon. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas les yeux du corps. Je vais utiliser les yeux du corps, les yeux du cœur, les yeux de la vérité. Je vois l'amour, je vois la présence, je vois l'unité de toutes choses. Et c'est le fameux pardon dont parle le cours en miracle. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a que des innocents. Comme dit le cours en miracle, tout enseignement, vrai enseignement, la base de tout enseignement, c'est le Fils de Dieu est innocent. Le péché est impossible. Il est totalement innocent puisqu'il est le Christ. Et le Christ, par définition, est innocent. Il n'est que perfection. Le Fils de Dieu est innocent et c'est dans son innocence que se trouve son salut. Alors, ce terme salut, ça veut dire... Le salut, c'est de voir qu'il a toujours été sauvé, quoi. Il n'y a rien à sauver. Parce qu'il est innocent, parce qu'il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à faire. On n'a rien besoin de faire. Quand on dit « il n'y a rien à faire », ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Il n'y a rien à faire. Ça ne change pas qui on est, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ça fait partie d'un jeu initié par l'esprit que nous sommes. Une pièce de théâtre où nous jouons tous un rôle parfait. Et nous ne pouvons pas ne pas jouer notre rôle. Ce qui fait que les dirigeants de Monsanto, par exemple, ou des cartels pétroliers et autres, jouent leur rôle en fonction de l'état de croyance générale. Et c'est pour ça que tout change actuellement, parce qu'au niveau individuel, nous décidons l'amour et non plus la peur. Nous décidons individuellement de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux à choisir l'amour. Comme Gandhi, comme Nelson Mandela, en disant « on pose les armes ». Alors ça fait peur peut-être, oui, je sais, ça fait peur, d'accord. Mais on est invité. Et je n'ai pas à l'imposer, j'ai à le vivre moi-même, c'est tout. Et quand je dis j'ai à le vivre, personne ne me force, parce que je peux être forcé par personne. Mais c'est l'appel de l'amour que je suis, qui appelle à se réveiller, à dire, mais regarde, regarde. T'as eu peur, t'as été terrifié, tu ne voulais pas regarder, mais regarde à l'intérieur, regarde qui tu es. Regarde en toi, pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est pas ce que font les autres. C'est pas les nouvelles technologies qui vont sauver quoi que ce soit. Il n'y a rien à sauver puisque tout est déjà sauvé. C'est ça la clé. Donc effectivement, c'est la spiritualité au sens de non-dualité, au sens de prise de conscience de ce qui est réel. Et tout à l'heure, j'ai cité l'introduction d'un cours en miracle, mais je me suis arrêté 3-4 lignes avant la fin, et cette fin, c'est ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Rien de réel ne peut être menacé. Et ce qui est réel, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est vous et moi, puisque ce qui est, c'est ce qu'on peut voir. On ne sait pas ce que c'est, mais cela est. Quand vous dites « je », ça y est, c'est « je sais ». Pour ça, le fameux « je suis », c'est ça. Même un oiseau est. Et pourtant, l'oiseau va mourir. Donc, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui dit « je » Il n'y a qu'un seul « je ». J-E. Dans ce jeu incroyable, l'illusion fantastique, on a l'impression qu'on meurt, parce que le corps disparaît. Et comment s'identifier au corps, c'est tout à fait normal d'avoir l'impression de mourir. Donc on l'accueille, ça. On accueille cette illusion, on accueille ce jeu. Et qu'est-ce que c'est qu'accueillir? C'est aimer. C'est j'accueille mon expérience. J'arrête de me sentir coupable d'avoir joué ce jeu de la séparation. D'avoir osé imaginer être séparé. Et c'est ce que nous dit le cours en miracle, en disant vous avez une culpabilité profonde. Vous vous sentez honteux d'avoir, vous avez l'impression d'avoir usurpé le trône de Dieu. Et c'est pas au hasard que dans un des chapitres du texte, où il y a 4 obstacles à la paix, et le dernier obstacle, le plus fort, c'est la peur de Dieu. Et une peur de Dieu profonde, à cause de ce jeu de séparation. Et finalement, on regarde en face et on éclate de rire en disant « mais il n'y avait rien. Il n'y a pas de séparation. C'est impossible. Dieu est tout ce qui est, nous sommes cela. Nous sommes la manifestation, nous sommes le vivant. » Et c'est pour ça que Jésus, il y a 2000 ans, disait « je suis la voie, la vérité, la vie. » Et évidemment, il va dire « tout comme vous ». Nous sommes la voie, la vérité, la vie. Et tout être est la voie, la vérité, la vie. C'est pour ça aussi que on nous dit dans la non-dualité qu'il n'y a qu'une seule force de vie. Nous sommes cette force de vie. Manifestée sous des milliards de facettes. Une montagne, un merle, une baleine, ce que vous voulez, une étoile, une petite fleur. Une petite fleur. Et dans le Yeshua Online, dans ce message du jour que je reçois tous les jours, mais qui est en anglais, il y a 3-4 jours, il y avait quelque chose qui m'a bien parlé. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, c'est tout à fait inhabituel. En disant, vous avez pu, et vous pouvez, parce qu'on peut, on n'a aucune limite, on peut faire ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas de temps. On peut imaginer des vies à l'infini. Rappelez-vous, il n'y a pas de temps. Et donc, vous pouvez vivre tout maintenant, ou avoir l'impression de vivre les choses séparément, c'est ce que nous faisons ici dans cette expérience terrestre. Et dans ce Yeshua Online, il était dit, vous avez pu vivre une vie où vous étiez une petite fleur minuscule dans les Alpes, petite fleur des champs qui ne vit qu'un jour. Et personne n'a remarqué cette fleur. Personne, mais pas les anges. Les anges, oui. Et c'est ça le plan divin. Il n'y a pas un atome dans l'univers qui ne soit pas à sa place. Il n'y a pas un atome qui n'est pas vu et su. C'est fantastique. Si nous méditons là-dessus, eh bien, les problèmes disparaissent totalement. Tout est pris en charge, tout, à l'infini. Pourquoi ça nous est difficile? Parce que nous avons choisi une expérience finie. Et nous avons fait des efforts colossaux pour avoir cette impression de finitude qui permet la projection et la perception. Être identifié à un petit corps précis, fini, à un endroit, dans un certain temps, un certain moment. Tout ça, c'est une illusion. Et donc, on veut essayer de se servir de ça pour atteindre l'infini que nous sommes. C'est impossible. C'est pour ça que, comme dit le courant miracle, on ne peut pas voir deux mondes. On voit soit l'un, soit l'autre. Le monde de la réalité, qui est le monde infini, qui est le monde divin, ou le monde de la séparation, qui est un monde fini. qui est gigantesque, qui est remarquablement imaginé, qui est merveilleux, qui est fantastique, mais qui n'est rien, absolument rien, comme nous dit le courant miracle, qui n'est rien en fonction de qui nous sommes, par rapport à qui nous sommes, je veux dire. Donc, cette notion de plan divin, cette notion de, comme disait Jésus, il parlait de l'esprit à l'œuvre dans le monde. Et ça, c'est cette clé-là, tout va bien. Tout est initié par l'esprit. Et donc, il y a un paradoxe inhérent, on peut dire, c'est une façon de parler, hein, un paradoxe apparent, inhérent à notre expérience. Et le courant miracle, pour dire ça, il dit, en fait, Dieu a créé le Saint-Esprit lorsque la pensée de séparation s'est produite. Bien sûr, c'est un instrument didactique pour essayer de dire quelque chose qui est au-delà des mots. Ça veut dire que dès qu'il y a la pensée de séparation, elle est totalement honorée, puisque Dieu dit oui à tout. Tu veux jouer la séparation? Ok. Création du Saint-Esprit, qui lui, à ce moment-là, œuvre pour ramener, en respectant cette pensée de séparation, pour ramener à la maison, et dire, mais non, ça n'était qu'une illusion, c'était impossible. Vous voyez, c'est difficile d'en parler, mais on peut dire qu'il y a deux directions en même temps. C'est dans ce plan divin, il y a un respect absolu de la liberté du Fils, où il peut imaginer ce qu'il veut à l'infini, et en même temps, il y a un plan parfait, infini, qui inévitablement le ramène à prendre conscience que non, c'était impossible, et que la séparation ne pouvait pas se produire. Donc il y a apparemment deux choses, et c'est très logique. En plus, le temps n'existe pas. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui est joué dans l'infini, par l'infini que nous sommes. Et donc, comme c'est joué par l'infini que nous sommes, ce jeu peut sembler perdu, c'est-à-dire on peut sembler être piégé à jamais dans cette illusion de séparation. Vous comprenez? Parce qu'on a une puissance infinie, là. Et c'est pour ça que l'univers, encore une fois, comme je dis souvent, c'est pour ça que l'univers se passionne pour cette expérience terrestre. Comme dit Crillon, jamais autant de liberté, autant de libre arbitre n'avait été autorisé que sur cette planète. Il semblerait qu'on a des informations comme quoi c'est dans notre galaxie. Peut-être qu'ailleurs, dans d'autres galaxies, ça a été autorisé. Mais déjà, la galaxie, quand on voit qu'il y a 240 milliards d'étoiles, c'est déjà pas mal. Alors, et que, bon, ça nous fait rire, parce que là, on touche à des domaines qui sont complètement au-delà de ce que le mental peut appréhender. La dimension de l'univers, c'est hallucinant. Et puis, nous voilà ici, autour de cette table, à parler de ça, avec notre expérience humaine précise, notre corps, masculin ou féminin, avec nos conditionnements, notre tout, notre petit monde minuscule, dérisoire. Et pourtant, c'est dans ce petit monde que nous sommes appelés à aimer, là, dans l'instant, maintenant, tout de suite. Là où vous êtes, vous qui entendez ces mots, c'est là que ça se passe, tout de suite. Et là, je peux choisir l'amour. Là, je choisis le plan divin. Je choisis qui nous sommes, qui sont mes frères et sœurs. Je choisis Dieu et tout ce qui est. Dieu est, comme nous rappelait tout à l'heure Avi au début de ce groupe, Dieu est. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. La vie est la vie. Et donc, la fin d'introduction du courant miracle, cette petite introduction qui dit « Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. » Et c'est ce que nous voulons, la paix. Parce que la paix, c'est la paix. Et la paix, c'est le bonheur, la joie. C'est tout, c'est au-delà des mots. Ça ne se discute pas. C'est l'expérience universelle, comme dit le courant miracle. C'est qui nous sommes. Tout à l'heure, Virginie nous parlait de... Elle nous disait qu'elle s'adressait à Dieu dans sa journée, selon les circonstances. Et effectivement, s'adresser à Dieu, au maître intérieur, ça peut être aussi un maître, ça peut être... Ça a un sens, parce que ça utilise la relation duelle, où je dis, ah, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Montre-moi. Donc, je joue le jeu de la dualité, évidemment. Donc, j'accueille quelque part. Mais pourquoi est-ce que ça change tout? Parce que je cesse de compter sur mes propres forces. Le courant miracle nous dit, la présence de la peur est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces. Quand je dis à Dieu, à l'Esprit, à Jésus, au Saint-Esprit, à ce que vous voulez, disons, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui est important, c'est à qui je m'adresse. Comment est-ce que je perçois? Comment est-ce que pour moi, je m'adresse à qui? Si je m'adresse à Dieu en tant que cette être qui va me juger et qui me demande des comptes, c'est foutu. Ça va pas. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a une épuration. Et je m'adresse à qui? Je m'adresse à l'amour même. Je m'adresse à l'infinie présence, au vivant, à l'éternel. Alors on nous parle dans la Bible et ailleurs, même dans un courant miracle, on nous parle du jugement, le jugement dernier, le fameux jugement dernier. Et le cours nous dit effectivement, il y a un jugement. Mais qu'est-ce que c'est que ce jugement? C'est le seul jugement qui soit. Et ce n'est pas un jugement, c'est tout est parfait. Voilà. Tout est perfection. C'est ça le fameux jugement dernier qui fait couler beaucoup d'encre. Et donc quand dans ma vie quotidienne, je me réveille le matin et puis je dis, bon, ben, allez. Allez, Saint-Esprit, allez, ou Jésus, tiens, je te donne, comme tu nous encourages, tu nous entourages à te donner la main, ou je parle à Dieu, bon, allez, montre-moi. Quand je fais ça, quel est le Dieu à qui je parle? Et c'est pour ça que dans le courant miracle, Jésus nous dit qu'il s'est totalement identifié au Saint-Esprit. Donc il nous dit, quand vous m'appelez moi ou Saint-Esprit, c'est pareil. Dieu, c'est pareil. Et puis aussi, le Christ intérieur, ça va être pareil. Et si tous ces termes-là ne vous plaisent pas, ben, prenez le Christ intérieur, prenez ce que vous voulez, ce qui vous parle. Ce qui est important, ce n'est pas les mots, ce n'est pas l'identification apparente, c'est votre attitude, mon attitude. Et donc quand je dis effectivement, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça, toi? Tiens, telle personne, j'ai pas envie de la voir. Ah oui, j'ai pas envie de la voir, mais qu'est-ce que t'en penses? Telle personne, tiens là, je me fais du souci pour telle chose à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Le fait d'avoir cette attitude de « qu'est-ce que tu en penses ?» quelque part, je me décharge les épaules. J'arrête de vouloir essayer de faire quelque chose. Dans cet instant où je dis « qu'est-ce que tu en penses ?» ou « je le pense » ou « je le ressens », j'arrête d'essayer de faire quelque chose. D'aller contre ce qui se déverse, ce qui vient vers moi en permanence. Et ce qui vient vers moi vient de moi. C'est pour ça que c'est aussi important de commencer à comprendre que tout ce que je suis responsable de mon expérience, donc c'est moi qui choisis mon expérience. Ça semble venir à moi. Et comme j'ai choisi cette illusion de séparation, évidemment, je me sers des deux. Je prends pleinement conscience que c'est moi qui crée mon expérience, et en même temps, dans cette expérience, je vais demander à quelque chose d'extérieur, Dieu, aide-moi, qu'est-ce que t'en penses? Donc vous voyez le paradoxe apparent. Eh bien, ça nous c'est amusant. On s'amuse avec ça. Merveilleux. Comme des petits enfants qui jouent, parce que c'est vraiment ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et puis on voit des miracles, on voit aussi des... Par exemple, voilà, j'ai l'impression que telle personne dans mon immeuble est fâchée, je veux pas la voir, j'ai l'impression qu'elle... Et puis là, une fois de plus, je vais prendre l'ascenseur avec la personne. Et puis là, j'ai pas le choix, je prends l'ascenseur avec la personne. Mais au lieu de me contrer, je dis, je lâche, j'y vais le cœur ouvert. J'y vais avec les yeux du cœur. Et à chaque fois, il y a un miracle. À chaque fois, la relation s'éclaire. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe et j'en ressors grandi. Et je me sens bien, je me sens heureux. Donc, quand nous avons des blocages, des réticences par rapport à telle ou telle personne, en disant intérieurement, mais qu'est-ce que t'en penses? Allez, tu me conduis, tu t'en occupes. Tu t'occupes de mes difficultés relationnelles avec telle ou telle personne et tu t'en occupes. Ça n'a rien à voir avec l'autre, ça semble avoir avec l'autre. J'ai l'impression que si l'autre changeait, ça changerait. Mais non, là je me trompe, c'est moi, c'est ma vision qui importe. Donc je te demande de l'aide. Alors tu t'en occupes. Et pourtant on va aussi dire que c'est moi qui crée mon expérience. Évidemment, c'est le Christ que je suis qui crée l'expérience. C'est le Saint-Esprit que nous sommes qui crée l'expérience. Vous voyez, donc c'est toujours un peu un paradoxe. Et donc il y a un côté extraordinaire qui consiste à voir que la sortie de cette illusion, de ce rêve, c'est en y rentrant pleinement, en l'accueillant, en l'embrassant plus que jamais. Notre expérience duelle, notre expérience humaine là sur cette planète bleue là. Mais alors, on l'embrasse dans l'amour maintenant. Et on veut des relations amoureuses. Et pas quelques relations amoureuses. On veut 7 milliards de relations amoureuses avec les 7 milliards de frères et sœurs. Vraiment. On ne veut pas d'exception. C'est d'ailleurs ce que nous dit le courant miracle. Il nous dit au début du livre d'exercice, vous allez probablement, certaines idées vont vous paraître difficiles. Peut-être que vous allez avoir tendance à vous y opposer. Mais simplement essayez de ne pas les rejeter. Et c'est la pratique qui va vous montrer que c'est vrai. Donc il y a une pratique. Cette pratique, c'est effectivement le dialogue intérieur. Donc apparemment une relation avec quelque chose d'extérieur. Mais c'est intérieur. Vous comprenez le. Et là, il y a. Les mots même en parlent. Parce qu'après tout, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis de parler à Dieu. Et de dire, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Conduis-moi. Montre-moi ta vision. Règle ce problème pour moi. C'est moi qui décide ça. C'est toujours moi. J'ai le choix. Et puis si, oui, non, mais on m'a dit quand j'étais petit que je devais faire ceci ou cela, etc. Oui, mais c'est moi qui ai choisi mon expérience de naître dans telle ou telle famille avec tel conditionnement. C'est pour ça que c'est si important de commencer à en prendre la pleine responsabilité, sans en avoir peur. D'ailleurs, c'est magnifique, parce que si j'en prends la pleine responsabilité, ça montre bien que je suis infiniment puissant. Je suis le Christ, comme évidemment tous mes frères et sœurs. Alors donc, il y a ce paradoxe. Je me sers de la dualité dans l'amour. J'accueille mon expérience duelle, ce petit corps qui semble séparé, différent de 7 milliards d'autres corps. Et je commence à l'apprécier et à l'aimer, cette expérience. Aimer tous les détails, dans mon appartement, ma maison, ma voiture. Dans le métro, le transport en commun, quand je suis au bord de la mer, à la campagne, je regarde un arbre, c'est toujours moi qui suis là. Et c'est moi qui fais cette expérience. Tous les détails, tous les atomes qui sont là, j'ai tout créé. Bien sûr, c'est pas le petit personnage là que je crois être qui a créé ça. C'est qui je suis, c'est qui nous sommes. Ça m'appelle, c'est mon cœur. Mon cœur est appelé par ça, par l'amour que nous sommes. Qui veut se retrouver lui-même, qui se languit. De retrouver la magnificence qu'il est, la beauté incroyable, infinie, que nous sommes.
Alors, je voudrais parler de, de l'ascension, un mot qu'on on entend souvent en ce moment, fortement relié à notre taux vibratoire. Je voudrais parler de, du jugement et de son interférence sur notre relation au tout. Et tout ça est relié. Hein. La première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous méditons ? Et quand nous sommes ici assis dans cette pièce depuis plus de 2 heures, qu'est-ce qui se passe intérieurement ? Et aussi, pourquoi nous venons nous asseoir dans cette pièce et partager ensemble ? Et pourquoi nous nous retrouvons pour méditer, ou pourquoi nous méditons seuls de temps en temps dans notre lieu? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Eh bien, que nous le sentions consciemment ou pas, nous cherchons à élever notre taux vibratoire. Nous cherchons à nous rappeler de notre nature. Nous cherchons le bonheur. Et comment on le fait ? En se posant dans un lieu, en se posant également en soi. Il n'y a pas d'effort à faire pour être en contact avec notre nature. Il y a simplement à abandonner l'état d'agitation mentale. Et même l'abandon de cette agitation n'est pas une chose à faire. Elle se laisse faire. Elle se produit lorsque volontairement nous arrêtons d'entretenir cette agitation. Et l'image qui me vient naturellement, c'est notre esprit est une sphère d'eau remplie d'une eau d'une pureté cristalline, absolument lumineuse et magnifique. Et dans cette eau, nous avons mis des particules qui se mélangent à l'eau, qui obscurcissent l'eau, et nous avons secoué. Hein. Et secouer cette eau mélangée, c'est agiter notre esprit par des pensées, par des jugements. De sorte que je n'y vois plus clair, hein, puisque l'eau est trouble, ma conscience est troublée. La conscience de la clarté de toute chose est troublée par ces pensées de jugement, par ces pensées d'attaque, par ce mental qui est toujours en action. Si j'émets sans arrêt des pensées, si mon mental est suractif, comme c'est souvent le cas dans nos sociétés, surtout en Occident, mais pas uniquement, qui est lié à la nature aussi humaine. Alors c'est comme si dans un étang en calme, je n'arrêtais pas de jeter des cailloux. Et ça fait sans arrêt des rides, des perturbations dans l'eau. S'asseoir dans une pièce et méditer, venir ici dans cette pièce et partager, c'est arrêter de jeter des cailloux dans l'étang de notre conscience et voir ce qui se passe quand l'étang redevient calme. S'asseoir et méditer, c'est laisser reposer l'agitation du mental pour retrouver la pureté de l'eau claire. Et l'agitation du mental, c'est aussi des pensées de jugement, des pensées d'attaque. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour que l'eau redevienne calme. J'ai simplement à laisser décanter en arrêtant de jeter des cailloux dans l'eau. C'est ce qu'on fait quand on s'assoit là. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose que moi je décris comme une alchimie qui est au-delà des mots parce que c'est vraiment un ressenti profond qui se passe après aussi des groupes de tantra ou n'importe quel groupe dans lequel notre nature profonde est invité à s'exprimer parce que le reste est invité à se calmer. Ce qui n'est pas notre nature profonde est invité à se calmer. Quand j'abandonne, je m'assois et je laisse mon esprit le plus vite possible de penser. Ou quand il y a des pensées, je les accompagne de ma conscience, je les enrobe de ma conscience qui est pur amour. Elles perdent de leur effet dissipateur, hein, qui dissipe un peu, qui obscurcit un peu l'eau. Et cette alchimie dont je parle, c'est tout d'un coup, je vous regarde et vous n'êtes plus des personnes séparées, mais vous êtes des frères. C'est le sentiment d'être relié beaucoup plus intensément par des liens subtils. C'est être en relation amoureuse, comme dit Sylvain, avec des personnes qui peuvent être des inconnus dans le métro, ou des gens connus mais que je connais socialement, mais que tout d'un coup j'apprends à connaître intimement. Et cette intimité-là, c'est ce que nous partageons tous, c'est notre nature. Et elle se révèle lorsque j'arrête de croire à autre chose. Quand je juge, je crois à autre chose qu'à l'amour. Je crois que tu peux m'attaquer, et donc je t'attaque en retour. Je crois que je suis vulnérable, et donc j'ai besoin de me défendre. Quand je me pose et que je médite, quand je viens ici animé d'intention d'écoute à l'intérieur de l'espace du cœur, c'est un espace où toutes les impuretés de l'eau sont invités à se décanter. Et ce sont toutes les pensées perturbatrices, tout ce qui n'est pas issu de l'amour, qui obscurcit l'eau. Et lorsque je n'entretiens pas l'agitation du bocal, hein, on dit vous êtes des agités du bocal, alors naturellement l'eau redevient claire. Je n'ai pas d'effort à faire, je n'ai pas à installer une machine pour filtrer l'eau. Je me pose et j'attends. J'attends dans une présence aimante et accueillante. Il n'y a rien à faire. Et dans cette présence et accueillante, naturellement, il n'y a pas de pensées d'attaque qui sont émises. Quand je m'assois pour méditer, ce n'est pas pour lutter contre ce que m'a fait mon voisin du quatrième. Hein. C'est pour laisser reposer les choses. Donc laisser reposer, c'est abandonner l'effort. Et l'effort, c'est le jugement, c'est l'attaque, c'est les pensées qui sont autres que celles issues de l'amour. Donc moi, je me ressens en fait de la même matière que vous tous qui sommes assis là dans cette pièce. Je me ressens de la même matière que tous ceux qui écoutent l'enregistrement, de la même nature, et je me sens de la même nature que tous les humains sur Terre, et je me sens de la même nature que toute l'existence. Pourquoi ? Parce que j'arrête de penser autrement. C'est d'une évidence, lorsque je n'entretiens plus l'attaque, ou les pensées autres que l'amour, que l'existence est une. Et ça m'amène à parler des vibrations. Il est dit que la plus haute fréquence possible dans l'univers, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus haute fréquence. Mais c'est l'amour universel. C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu. C'est l'amour sans condition. Il est dit que cet amour-là, introduit dans un corps humain, ferait exploser le corps humain parce qu'il ne peut pas tenir cette fréquence. Le corps humain vibre beaucoup plus bas. Et l'amour humain vibre beaucoup plus bas que cet amour sans condition. Alors c'est quoi ces vibrations? Tout est vibration, la matière est vibration, le son est vibration, l'amour est la plus haute vibration, la peur est vibration. Il s'agit juste de fréquences. Il y a une échelle qui part de la plus basse fréquence possible, qui est terreur absolue, jusqu'à la plus haute fréquence, qui est l'amour absolu, l'amour sans condition, sans opposé. Et entre les deux, nous avons inventé toute l'échelle intermédiaire dans la dualité. Et donc, laisser reposer les vibrations basses, laisser reposer, ne plus entretenir de choses qui abaissent le taux vibratoire, naturellement augmente le taux vibratoire. Puisque ma nature est d'un taux vibratoire élevé. Donc quand j'entretiens un jugement, je fais interférer une vibration basse avec ma nature profonde d'amour. Alors bien sûr, momentanément, je sens des vibrations, je sens que cette nature est voilée ou mes vibrations s'abaissent à cause de cette croyance en un jugement. Et l'ascension dont on parle et la transition dont on parle vers des réalités supérieures, ce n'est autre qu'une élévation continue du taux vibratoire, de notre taux vibratoire, vers des fréquences qui sont de plus en plus inspirées vers la confiance, la solidarité et l'amour. Et pouvoir habiter ces fréquences sans forcément devoir s'asseoir pour méditer, sans forcément devoir se réunir pour se soutenir et pour partager des intentions pures qui nous élèvent. Mais c'est comme monter d'un étage dans notre maison vibratoire. C'est comme nettoyer ce monde de ces vibrations inhérentes de peur et de domination et d'asservissement. Et donc fournir un cadre favorable pour que nos agissements soient beaucoup plus possibles dans l'amour qu'auparavant. C'est ça l'ascension. C'est un phénomène qui est essentiellement vibratoire. Et nous sommes aidés, D'abord, c'est un plan divin, comme on vient d'en parler. Merci, Sylvain. Donc, c'est une façon programmée par Dieu pour sortir de ce monde de dualité, pour se souvenir de notre nature et nous sommes aidés aussi par nos frères de l'espace qui sont dans des vibrations plus hautes que nous, pour certains. Ces vibrations qui sont plus hautes, naturellement, nous amènent à nous mettre au service. Et également, quand nous serons dans des vibrations plus hautes, après ce qu'on appelle l'ascension, l'élévation vibratoire, cette élévation, elle se fera pas sans notre libre arbitre, elle se fera pour ceux qui ont choisi l'amour et qui ont choisi de vivre l'amour plus souvent et de favoriser des situations d'amour. Pour certains, les leçons restent à apprendre et pour certains, parler d'amour, ça reste quelque chose de pas entendable, et agir par l'amour, ça reste quelque chose de pas accessible. Et ce n'est pas jugé, c'est le chemin de ces âmes, puisqu'il y a des âmes qui ont fait de longues pérégrinations, qui ont appris de leurs erreurs et de leurs expériences pour élever le taux vibratoire et reviennent pour terminer, pour achever ce cycle. Et puis d'autres sont plus jeunes et donc continuent à choisir autre chose que l'amour. Donc ceux qui ont choisi de terminer le cycle le termineront. La plupart de ceux qu'on appelle les artisans de la lumière, et quiconque veut se développer spirituellement en éteint, quiconque participe à ces groupes en éteint, quiconque a le désir d'être au service de l'humanité et de la paix en éteint, et il y en a beaucoup plus que nous le pensons, quiconque choisit ça verra ce choix honoré. par un changement de vibration sur Terre. C'est ce qui peut s'appeler transition vers des sphères où la Terre accueillera des vibrations plus hautes. Nous sommes aidés par des vibrations cosmiques qui arrivent sur Terre. Donc leur taux augmente et nous incite aussi à augmenter notre propre taux. Pour ceux dont le taux vibratoire est bas, ces hautes vibrations peuvent être difficiles à supporter, difficiles à honorer, ou même insupportables parce que ce qui est lourd ne vibre pas facilement et devient douloureux lorsqu'on l'invite à vibrer. Faites vibrer du plomb, vous aurez du mal. Faites vibrer de l'air ou quelque chose de léger et ce sera beaucoup plus simple. Donc cette transition, elle est en cours par l'accélération du temps, par l'accélération des vibrations autour de nous et en nous, par le fait que pour beaucoup, c'est important d'augmenter la conscience de ce qui se passe, la présence à ce qui se passe. Le soleil en fait partie de ce qui nous envoie des vibrations plus hautes, de la lumière, hein, pas seulement physique. Et puis les frères de l'espace sont également là en tant que à la fois spectateurs et aussi acteurs pour nous aider à changer de mode vibratoire dans des circonstances les plus favorables possibles. Donc le jeu s'achève, l'univers entier semble-t-il a les yeux braqués sur la Terre et l'ascension n'est pas un phénomène unique à la Terre, mais un phénomène qui concerne l'univers tout entier, mais dont la Terre représente un aspect tout à fait particulier dans le sens où il y a eu énormément de libre arbitre et jamais la dualité n'a été autorisée à ce point sur Terre. Donc cet achèvement est bien plus glorieux, bien plus ample sur Terre qu'ailleurs où il y a moins de dualité, moins de diversité aussi dans les expériences que nous vivons. Donc la Terre en tant qu'être vivant, en tant que faisant partie d'un astre doté de vie, fait partie également de cette transition, dans le sens où tout ce qui est lourd et encombrant, toutes les pollutions sont appelées à se nettoyer, par notre changement de paradigme, par notre changement de vibration, par nos changements d'intention. De vivre dans un monde pur, c'est aussi de vivre dans une terre pure, où l'eau est pure, où l'air est pur, où la terre est pure. Voilà, et ça peut se passer par notre changement de vision, de vibration. Voilà, en ce moment, nous recevons beaucoup de messages. Moi, j'ai les oreilles assez braquées sur les messages en provenance de Sirius par un être qui se nomme Salusa, qui représente un ensemble d'êtres, pas seulement de la planète Sirius, mais de toute la galaxie, qui se sont réunis dans l'amour, dans ce qui s'appelle la Fédération Galactique de la Lumière, au nom de la lumière et au nom de l'amour, mettent leur évolution plus avancée au service de la nôtre pour favoriser ce passage avec le moins de perturbations possibles. Bien sûr, les perturbations des systèmes en cours sont inévitables pour que le nouveau puisse prendre place. Le système financier, tout le système de l'énergie, tout le système du pouvoir et de l'asservissement sur Terre. Voilà, n'oublions pas que tout ça est jeu et illusion, et pourtant c'est des outils très, très importants pour nous rappeler notre nature. Hein. C'est pas parce que nous en parlons que c'est vrai, hein. Mais nous utilisons tout ça pour terminer cette panoplie d'expériences et en commencer une autre, qui est issue d'un autre monde et dans laquelle nous continuerons d'apprendre, mais pas avec la dualité, hein, d'une autre manière. Nous nous mettrons au service beaucoup plus, les uns des autres. Les relations pourront être basées sur une confiance réciproque entre humains et une authenticité plutôt que sur le doute, la peur et le mensonge. Voilà. Donc ces messages, je suis guidé à les transmettre. Ils sont très positifs. Ils sont beaucoup centrés sur l'espoir et le retour à une perception vraie de qui nous sommes. Ces êtres, ces frères de lumière, de l'espace, peuvent agir dans une certaine limite, celle de notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous imposer des choses, mais ils peuvent nous suggérer des changements, et ils peuvent, et nous pouvons initier nous-mêmes les changements qu'ils nous suggèrent. Donc il nous suggère le passage à l'énergie libre, il nous suggère des modes de santé, de retrouver la santé qui sont très différents de ce qui existe actuellement sur Terre. Ils appellent ça des sphères de lumière, où le simple fait de pénétrer dans cette sphère peut permettre de retrouver un état harmonieux au niveau du corps. Voilà, tout ça, ce n'est pas entièrement extérieur, hein, mais tous les artisans de lumière sont guidés à recevoir des choses, à recevoir des techniques et à les mettre au service de l'amour sur Terre. Donc, que ce soit un hasard ou pas, j'ai reçu récemment deux emails très marquants pour moi que je n'ai pas encore approfondis. Donc chacun utilise son libre arbitre pour lire et approfondir ces choses que je vais diffuser prochainement. Dans l'un, il y a un médecin qui est à la fois physicien, biophysicien, qui a expérimenté et qui met maintenant, qui diffuse maintenant une médecine quantique qui a des effets de guérison apparemment très puissants. Par effet quantique. Hein, et il semblerait que ça fonctionne très bien. De mémoire, c'est le docteur Haddad. Hein, et donc, il n'y a plus de notion de médicaments, mais c'est plus comme il appelle ça une homéodynamique. Hein, c'est quelque chose qui ressemble à l'homéopathie. Il a d'ailleurs étudié l'homéopathie pour voir comment elle fonctionnait. Et il s'est inspiré de Dell pour cette guérison quantique. Et puis j'ai reçu hier un message vraiment extrêmement enthousiasmant d'une association belge qui est dirigée par un Iranien qui est physicien nucléaire et qui met à disposition des brevets pour l'énergie libre en quantité illimitée, pour des moyens de transport qui permettent d'aller de Paris à New York en 10 minutes, ou d'atteindre n'importe quel endroit de la Terre en 10 minutes, d'une manière quasi gratuite et infinie. En même temps, il met à disposition des moyens de santé complètement inédits, des moyens de fournir l'eau à la planète entière en quantité suffisante et de l'eau pure, et de moyens de nourrir la planète entière de manière illimitée. Alors c'est bien sûr, c'est révolutionnaire. Il a invité cette fédération, cette association a invité les dirigeants de la planète à venir pour distribuer les brevets que ces dirigeants mettent ça en application. Certains ont refusé, certains ont fait volte-face au dernier moment. Bien sûr, il y a beaucoup de conflits d'influence. Il a ensuite appelé les scientifiques de la planète entière à venir reproduire ces expériences et à profiter des brevets pour ensuite diffuser dans le monde entier. Voilà, c'est très nouveau. Moi, je suis à la frontière entre croire que c'est vrai et croire que c'est de la science-fiction. Et en même temps, dans cette période, dans l'enthousiasme dans lequel j'entends tous les messages qui arrivent, ça vient en une cohérence parfaite avec ce qui est dit. Et ça m'invite à me dire que ces vibrations-là de santé, de guérison, d'amour, sont en train de s'installer sur Terre au moyen de ça. Il se peut tout à fait, je suis guidé à croire tout à fait que ces inventions et ces techniques ont été fournies par des extraterrestres, par ces êtres de lumière qui nous aident, à des personnes isolées qui ne sont pas forcément des gouvernements, pour influencer de plus en plus. Parce que ce que nous faisons en tant qu'être incarné est possible sur Terre. Par contre, les frères de l'espace ne peuvent pas apparaître d'un coup, se poser sur la Terre. Ça interférerait avec notre libre arbitre et ça conduirait aussi certains à des chocs émotionnels très profonds. Donc, d'après ce qu'ils nous disent, ils y vont doucement. Ils demandent à ce que les gouvernements divulguent leur présence, qui est connue depuis des dizaines d'années par les gouvernements, mais que pour des raisons de pouvoir, elle n'est pas divulguée. Donc, ils disent qu'ils sont de plus en plus pressants pour que ça se fasse. Ces frères de l'espace ont des alliés sur Terre. Et qui sont ces alliés? C'est important de le dire. Des frères de l'espace qui ont choisi l'incarnation, pour la plupart, pas tous, qui ont choisi l'incarnation, c'est la seule manière pour un être, pour un esprit, pour une âme, d'aider la Terre directement, parce qu'on choisit en même temps le corps humain. Et là, l'interférence est autorisée parce que il y a ce libre arbitre hein, en tant que corps humain qui est respecté. Je fais partie de l'humanité et donc, mais ces âmes ont choisi de prendre un corps pour augmenter le taux vibratoire de la planète et aider. Et il y en a certains qui apparaissent même sur YouTube en tant que pléiadiens et qui nous délivrent des messages, mais ils sont dans des corps. Par contre, ceux qui ne sont pas incarnés peuvent juste transférer des messages à leurs alliés terrestres et à nous qui les recevons, qui sommes ouverts à cette possibilité hein, que d'autres formes de vie et de conscience existent dans l'univers. Voilà. Donc, voilà, moi je suis guidé à suivre l'actualité de jour en jour. Et je n'oublie pas pour autant le but de tout ça. Hein. Ce n'est pas un but technique, ce n'est pas un but d'avoir un corps en bonne santé. Le but, c'est d'aimer de plus en plus et de se mettre au service de l'amour de plus en plus en déposant tous nos encombrants sur le trottoir. Et ce qui encombre la Terre actuellement, c'est les âmes obscures qui ont choisi l'obscurité pour asservir et qui visiblement arrivent à la fin de leur mission et vont être mises de côté de manière à laisser plus de lumière inonder la Terre. Voilà, je remercie l'esprit d'avoir guidé mes propos. Je ne m'attendais pas à dire autant de choses. Et puis ceux qui font partie de ce que j'appelle la liste de diffusion groupe de conscience recevront ces deux dernières informations, docteur Haddad et puis le physicien nucléaire iranien que j'ai reçu récemment. L'invitation c'est de diffuser bien sûr hein, et puis ceux qui sont pas réceptifs, nous comprenons. Hein, il y a 15 ans j'aurais crié au charlatanisme et puis j'aurais pas été du tout réceptif. Donc je sais ce que ça veut dire que d'avoir un taux vibratoire qui ne permet pas de laisser entrer cette vérité. Et ça n'a aucune importance. Hein. Chacun a son rythme, chacun élève ses vibrations à son rythme. Et parfois il faut des choses difficiles pour remettre en question des certitudes tenaces. Et parfois les encombrants doivent être délogés profondément à l'intérieur dans le corps avant de pouvoir être déposés sur le trottoir. Donc tout cela n'a pas d'importance, chacun suit son chemin, Mais ceux qui sont prêts à se mettre au service le font dès maintenant, parce que c'est vraiment la période qui nous invite à laisser rayonner l'amour. Je nous aime. J'ai parlé. Voilà, j'ai parlé, c'est aussi l'heure de clore l'enregistrement et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je fixerai le rendez-vous, je ne l'ai pas en tête actuellement. Apparemment, ce sera samedi, merci l'esprit, samedi prochain. Apparemment, à la même heure, hein, tout cela sera confirmé par... email et sur le site Être Plus pour ceux qui suivent ce site. Voilà, dans la joie de ces retrouvailles diverses dans l'amour, dans cette exaltation de ce futur plein de potentiel qui se présente à nous, je termine cet enregistrement par à nouveau un son, une vibration qui nous invite aussi à vibrer à l'unisson.